Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour chers amis auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle édition du Libre Journal des Économistes, l'émission ultra-néo-turbo-libérale sauvage de Radio Courtoisie. Le thème de l'émission du jour est entreprise et stratégie, et pour en parler, j'ai le bonheur d'être avec Xavier Fontanet, ancien président de directeur général d'Essilor, qui a aussi travaillé comme salarié au Boston Consulting Group, et ça a eu une importance... une grande importance dans la suite de sa carrière, et puis il a aussi travaillé chez Eurest, chez Beneteau et puis chez Eurest. Enfin bref, donc nous allons parler de ça avec lui autour de son livre De la stratégie en entreprise, qui est un livre de conversation avec Pierre Pupier, publié chez Manitoba les Belles Lettres, un livre absolument passionnant. Donc voilà, donc on va étudier ça. Je commence par les actualités libérales peut-être rapidement. Il y a le 13e week-end de la liberté qui aura lieu du vendredi 18 octobre à 19h au dimanche 20 octobre à 14h30. C'est tout le samedi, c'est la soirée du vendredi, tout le samedi et le dimanche matin à l'hôtel Sourceo à Saint-Paul-lès-Dax, comme chaque année. Et le thème de l'année 2024 sera la liberté, source de prospérité. Développement que nous propose Patrick de Cazeneuve, c'est initiative privée et responsabilité individuelle sont les moteurs d'une prospérité non seulement matérielle mais intellectuelle. Cela implique nécessairement une sphère politique réduite aux missions régaliennes qui respectent la liberté et la dignité de la personne humaine, la propriété individuelle, l'économie de marché et l'état de droit. Et parmi les professeurs ou personnes qui parleront, il y a Louis-Alexandre de Froissart, Nathalie Janson, Augustin de Livois, Loïc Le Floch-Prigent, Vincent Ginocchio, Nicolas Jutzé, Jean-Baptiste Noé. Donc voilà, c'est que du beau monde. Alors on parlera aussi du discours de Michel Barnier en politique, discours politique à l'Assemblée nationale. Mais je vais essayer de prendre d'abord peut-être une alors il faut utiliser le casque. Je vais prendre un invité par téléphone. Alors, est-ce que Yannick Gélin est là ?
Oui, je suis là, je vous entends.
Très bien,
vous
parfait.
M'entendez correctement.
Oui, je vous entends très bien. Alors, vous êtes le dirigeant de Discover Store, c'est un nom très anglophone pour Radio Courtoisie, mais peu importe, en Moselle.
Oui.
Racontez-nous un petit peu et rapidement quel est le problème auquel est confronté non seulement votre entreprise, mais de nombreuses entreprises commerciales de petite taille à cause d'une directive européenne, si j'ai bien compris. Dites-nous tout.
Oui, je vais vous expliquer. Alors déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Je vous remercie de me donner la parole, et ainsi qu'à probablement beaucoup de commerçants qui vont se reconnaître, au moins partiellement, dans ce que je vais pouvoir vous raconter, et qui est pour moi quelque chose d'assez terrible. Alors, je fais partie des nombreux commerçants qui vendent sur les places de marché en France, quels que soient les produits. Moi, en ce qui me concerne, c'est des produits culturels, c'est un nom un petit peu barbare, mais pour les CD, les DVD, les livres, les vinyles, etc.
Et, très bien.
Je fais partie donc dans l'ombre de ces petites entreprises qui sont en général très performantes, souvent des TPE, auto-entrepreneurs, familiales souvent, et qui chacun dans son domaine d'activité permet à tout un chacun, en passant en commande sur ces grands sites marchands, de recevoir après quelques clics de la marchandise de qualité à domicile.
Bon bien, alors quelle est cette directive européenne
Alors il s'agit en l'occurrence d'un règlement, ce n'est pas une directive, c'est vraiment
un règlement
qui s'applique vraiment de la même manière, à la même date sur l'ensemble du territoire européen. Il y a un nom un petit peu barbare, ça s'appelle le RSGP pour Règlement relatif à la sécurité générale des produits. Un texte de loi dans lequel j'ai dû me plonger, n'étant pas juriste, et essayer de comprendre un petit peu quels étaient les sous-entendus de ce règlement qui, a priori, n'a suscité aucun problème lorsqu'il a été voté en décembre dernier au Parlement européen.
Et il n'est pas voté par les gens que ça concerne, c'est ça le problème, mais bon. Oui.
Non, effectivement, on constate jour après jour, nous, commerçants, qu'il y a véritablement, entre guillemets, des trous dans la raquette, des pans entiers de l'économie qui n'ont pas été consultés ou qui ont été ignorés. Alors, ce règlement, à la base, n'a rien d'extrêmement fou. Hein. Il s'agit, sous une même bannière, d'apporter des éléments de traçabilité à l'ensemble des produits qui vont être mis à disposition des clients sur le territoire européen. Ça généralise, en fait, un certain nombre de demandes qui étaient faites déjà aux places de marché et aux commerçants de fournir des informations sur les produits qu'ils achètent. pour de la sécurité. On parle vraiment de faire en sorte que les consommateurs ne se blessent pas, ne se fassent pas de mal avec les produits qu'ils achètent.
Oui, il faut bien.
Certaines catégories sont épargnées, on va dire, par ce règlement, parce qu'elles sont déjà concernées par des règlements plus stricts. Je pense aux aliments, je pense aux médicaments, aux cosmétiques, etc., où les normes sont déjà très, très sévères. Dans mon secteur aussi, également, on se bat vraiment avec un empilement de normes européennes qui devient relativement ingérable et qui, à chaque fois, sont des obstacles pour les plus petites entreprises qui, de gré ou de force, finissent par quitter le navire parce que ça devient asphyxiant.
Et alors, du coup, c'est quoi ? C'est qu'on vous demande, pour chaque produit que vous vendez, chaque CD, chaque DVD, on vous demande de faire de tracer son...
Voilà. En fait, on me demande un certain nombre d'éléments qui vont être donc joints avec chaque commande, c'est-à-dire un petit papier ou un autocollant sur chaque produit, que ce soit des produits neufs ou d'occasion, quels que soient les produits, qui soit sont des certificats de sécurité, ce qui se conçoit pour certaines catégories de produits, je ne le nie pas.
Mais alors, c'est pas fait par catégorie, c'est-à-dire que c'est pas fait pour tous les DVD ou tous les CD, c'est fait CD par CD, DVD par DVD.
Voilà, en fait, c'est vraiment ça.
Alors,
c'est
effarant, c'est-à-dire qu'effectivement, quand j'imagine, enfin, une entreprise comme Apple, quand elle vend son iPhone, elle peut faire un papier et le papier sera valable pour tous les iPhones. Vous retrouvez dans une situation où chaque produit que vous vendez, finalement, vous demande un travail de dingue.
Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chaque offre va prendre beaucoup de temps pour chaque commerçant. Ça va être très compliqué d'apporter déjà en ligne préalablement pour la mise à disposition des produits l'ensemble des informations.
Bien sûr, évidemment, c'est complètement délirant. D'ailleurs, j'ai une toute petite anecdote. J'avais un ami qui fabriquait un appareil électronique assez compliqué, mais qu'il vendait à l'unité. Il l'avait vendu au Futuroscope, il l'avait vendu dans des pubs en Angleterre, etc. Enfin bref, et il y avait une directive électromagnétique. Alors qu'évidemment, quand c'est des appareils Sony, etc. Bon ben voilà, on fait ça pour un appareil qui est vendu ensuite à des milliers d'exemplaires. Il vendait les bonnes années, il vendait deux exemplaires ou trois exemplaires de son produit, et il se retrouvait à devoir remplir tous les papiers de la directive électromagnétique. Et ce qu'il a fait, devinez quoi ? Il a fermé son entreprise, voilà, affaire réglée. Il n'arrivait pas à suivre, et c'était la même chose pour la directive REACH sur les produits chimiques, etc. Ces gens-là sont complètement fous, ils n'ont absolument aucune idée, ils ne se rendent absolument pas compte de l'enfer dans lequel ils plongent les entrepreneurs.
Oui, alors en l'occurrence, pour ma catégorie de produits, c'est vraiment l'enfer. Enfin, ça signifie la fin de l'activité.
Règlement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, mon bon monsieur Alerter, alors c'est ce que nous faisons. Quoi d'autre ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que je vous remercie, parce que ça fait déjà plus d'un mois que je me suis penché sur le sujet, que j'essaie d'éveiller l'attention des décideurs, qu'ils soient médiatiques, politiques, économiques, sur l'absurdité de la situation, qui nécessiterait pour moi, par exemple, que j'embauche j'embauche 13 personnes, 12 ou 13 personnes pendant un mois, simplement pour la mise en conformité.
Et votre entreprise, aujourd'hui, c'est combien de salariés ?
Alors, c'est un salarié. Voilà, c'est
c'est
le seul salarié gérant de cette entreprise.
Eh ben, ça va créer de l'emploi, c'est merveilleux. Vous allez passer de 1 à 14 salariés, c'est extraordinaire. Non, je plaisante, évidemment.
Malheureusement. J'étais peut-être en train de considérer, d'envisager la possibilité d'embaucher quelqu'un ces derniers temps, vu que j'arrivais un peu à stabiliser mon chiffre d'affaires. Bon, c'est clair que ça ne se fera pas, c'est triste, mais c'est comme ça. Mais c'est surtout le fait que le 13 décembre, je vais me retrouver avec plus aucun revenu, ou quasiment plus. Et c'est là qu'il y a des petites subtilités, parce qu'il y a le règlement et il y a l'interprétation qu'en font les grands sites marchands. Et là, ça diverge. Ils n'ont pas forcément tous la même position. Et en fonction de ce que ces sites vont nous dire d'ici au 13 décembre, on pourra, mes collègues, confrères et moi, continuer à travailler ou pas.
Ah,
certains vont y perdre du temps, d'autres de l'argent, et moi c'est à peu près tout, et je ne peux pas imaginer passer plus de temps aujourd'hui à essayer de me mettre en conformité que les 10 ans qui m'ont été nécessaires pour constituer cet inventaire de 120 000 références que je propose aujourd'hui à la vente.
Bien sûr.
De travail, et c'est un stock qui sera en plus démonétisé, c'est-à-dire que je ne pourrai même plus vendre puisque plus personne ne voudra acheter ce stock. C'est vraiment une catastrophe à titre personnel. Et je pense que beaucoup de commerçants, pas forcément exactement sur les mêmes problématiques, mais seront très très impactés par...
Évidemment, c'est absolument délirant. Mais écoutez, j'espère en tout cas que votre appel sera entendu en haut lieu, que les dirigeants politiques auront conscience de l'absurdité dans laquelle ils vous placent. Et puis éventuellement, d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas rester trop longtemps comme ça au téléphone, mais peut-être que je vous inviterai dans une prochaine émission Celle du 30 octobre est déjà enregistrée, mais peut-être une des suivantes, voilà, la prochaine, dans 4 semaines,
avec
est déjà enregistrée.
Oui,
ah, mais écoutez, je vous remercie infiniment, Yannick Gélène, et puis on parlera peut-être d'ailleurs de votre situation dans le reste de l'émission avec Xavier Fontanet. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée, et ben, je vous dis à très bientôt.
Merci
pour votre invitation, bonne journée à vous également.
Bonne journée, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Bien. Donc voilà, alors Xavier Fontanet, je ne sais pas ce que vous pensez de ce que nous venons d'entendre, mais enfin, c'est assez dramatique.
Moi, hein, c'est simplifié prix pour nous.
Oui.
Ah oui, bah, écoutez, non, c'est assez pathétique, hein, c'est toute la complexité. Bah, des gens qui sont trop loin.
Oui,
des gens qui sont trop loin de la réalité, ils n'ont jamais été dans l'entreprise. Hein. Et puis, alors, moi, j'avais une formule, mais bon, qu'on peut pas dire, qui était simplifié prix pour nous, si vous voulez. Hein.
Ah oui.
Je voudrais qu'il y ait un 5 plifié.
Oui.
Et puis, bah, les gens, vous comprenez, vous riez, vous avez compris, mais c'est un vrai cauchemar pour les opérationnels.
Oui, et puis on nous parle d'année en année de choc de simplification, de choc fiscal, de choc de compétitivité.
Il se passe très exactement l'inverse.
Voilà,
donc ça se complique. Et puis, non, mais dès que vous avez trop d'administration, vous générez automatiquement de la norme.
Oui.
En fait, l'excès de normes, c'est une mesure d'excès de l'administration aussi. Hein.
Oui.
Parce que les gens doivent s'occuper, vous comprenez. Puis souvent, ils sont intelligents, hein. Ils travaillent.
Oui.
Mais le problème, c'est que ça fait des bêtises.
Oui, évidemment. Hein,
ils ont sûrement des bonnes intentions, hein, c'est pas ça.
Non, bah, c'est pas le problème des bonnes intentions.
C'est le système,
qui
est mauvais, bien sûr.
Tout à fait. Alors, par ailleurs, oui, discours justement de Michel Barnier hier. Alors, avant de parler de ce discours, je voudrais quand même citer dans votre livre de la stratégie en entreprise, c'est anecdotique à l'intérieur du livre, c'est dans votre conquête de l'Argentine que vous parlez de ça, mais je trouve que c'est très adapté à la situation française aujourd'hui. Alors je vous lis. Hein. Le chiffre d'affaires s'effondre, donc vous parlez de la filiale Essilor en Argentine, car le pays est à l'arrêt, en particulier la sphère publique qui ne peut plus s'endetter. On assiste à des scènes terribles, les hôpitaux n'ont plus les médicaments, les gens y meurent, on ne paye plus les retraites, les seuls qui ont de l'argent sont les policiers et les militaires, ils ont les armes. La fonction publique voit ses salaires amputés de 50%, c'est le drame absolu dans tout le pays. J'ai toujours regretté qu'on ne parle pas assez en France de cette crise de l'Argentine, ni des images de ce qui survient quand un pays est trop endetté et se voit refuser tout emprunt.
Absolument.
Ah voilà, ouais. Alors c'est ça qui...
Ah, ça m'a marqué, les gens venaient, ils pleuraient.
Bien sûr.
Les gens des Essilor pleuraient quand ils faisaient les budgets, quand ils racontaient ce qui arrivait chez eux.
Bien sûr.
Moi j'y suis allé, hein, pour voir. On a dû en fait, on a enlevé tous les frais généraux. On a envoyé tous les patrons des Essilor Argentine monter Essilor au Mexique.
Oui, bien
donc
sûr.
On
oui,
avait les moyens en tant que groupe.
Oui, bien sûr.
Et donc, il a fallu enlever 30% des coûts, si vous voulez. Et à ce moment-là, Essilor a tenu, mais à un niveau beaucoup plus bas. Et les souffrances des gens étaient effroyables.
Voilà,
et ça, il faut en parler.
Alors, c'est ça,
il faut absolument en parler.
Il faut que les Français sachent ce qui leur pend au nez.
Et c'est la fonction publique. Hein, c'est la fonction publique qui souffre le plus. Hein.
Et alors, j'ai l'impression, oui, bien sûr, évidemment, oui. On ne peut plus payer les salaires des fonctionnaires et on ne peut pas augmenter davantage dans une situation comme ça.
C'est eux qui souffrent le plus.
Les impôts, c'est ça, oui, c'est impossible.
Bien sûr.
Alors, Michel Barnier dit que le budget, le déficit devrait dépasser 6% cette année et que sa volonté est de le ramener à 5% en 2025 avec l'idée de passer sous le plafond des 3% en 2029. Alors à chaque fois, on nous parle de ça, sous le plafond des 3%, mais c'est jamais fait. La réponse n'est pas à la mesure de l'enjeu, disons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de 1% en moins dans une situation où il faudrait faire moins 30%. Enfin.
Bien sûr. Non, mais attendez, le côté positif, c'est qu'il a calmé le jeu, je trouve.
Oui.
Ça commençait très mal avec la gauche qui brandissait.
Certes.
Et donc, à un moment donné, j'avais même peur que ça dégénère complètement. Et finalement, il a repris la... Il a redominé l'Assemblée.
C'est vrai.
Et donc, je crois que déjà, on se calme. L'autre truc, c'est qu'on s'écoute. Hein, mettre du calme dans la situation, je crois que c'est très important. Quand c'est très grave, il faut rester calme.
Ah oui, bien sûr.
Je trouvais que c'est le côté positif. Hein. Je trouve que tout ce qui est régalien, immigration, écologie, c'était pas trop mal.
Oui. Bon,
sur le social, il n'y a pas eu de choses très, très fortes. Bon, les réductions de coûts, là, c'est le seul truc qui m'a un peu déçu.
C'est moi aussi, oui, moi aussi, beaucoup.
On se rend bien compte qu'il n'y aura pas. Alors, par exemple, ils ont fusionné France Stratégie.
Et le Haut Commissariat au Plan.
Mais moi, j'aurais fermé.
Mais il faut supprimer les deux.
J'aurais fermé France Stratégie, j'aurais fermé le CESE. Et je trouve des trucs comme ça, ça marque.
Bien sûr, bien sûr.
Arrêter, on dit, écoutez, ils n'ont pas fait le bon, c'est eux, je veux bien, mais c'est pas
mais extraordinaire. Ça sert à rien, ça sert à rien.
Donc, stratégie, voilà. Ils sont en concurrence avec des tas de sites privés. Quand vous regardez Fondapol, des gens comme Fondapol, ils font des travaux extrêmement intéressants. C'est des bénévoles. Au moins, c'est de l'argent qui vient de fondations. Je trouve que tous les rapports qu'ils donnent sont aussi bons. Et ce serait un signe très bien, disons, on arrête ça, mais on arrête, vous voyez, ce serait des...
Tout à fait,
petits
tout
signes,
à fait, tout
petits
à fait.
Signes que, qu'il faut...
Et il ne faut surtout pas les fusionner. Les fusionner, ça veut dire qu'on va garder les personnels de deux côtés.
Et surtout, on a l'équivalent en études sur le privé. Et à ce moment-là, ils peuvent très bien passer. Il y a une boîte extraordinaire qui s'appelle Rexecode. Et ben, ils passent des études à Rexecode et puis c'est tout. On n'a pas besoin de monter. Donc là, j'étais un peu déçu. Oui. Puis on a eu évidemment l'histoire de la justice fiscale. Alors
ça, c'est terrible. Alors je peux lire hein, ce qu'il a dit, mais voilà... Il dit « Nos impôts sont parmi les plus élevés du monde ». Alors là-dessus, on est d'accord. Il dit « Les baisses d'impôts décidées depuis 7 ans et les mesures prises pendant la crise Covid ont aidé beaucoup de Français à redonner de l'oxygène à beaucoup d'entreprises. Mais la situation de nos comptes demande aujourd'hui un effort limité dans le temps. » Alors ça, j'y crois pas du tout. « Qui devra être partagé dans une exigence, de justice fiscale. Ce partage de l'effort nous conduira à demander une participation au redressement collectif aux grandes entreprises qui réalisent des profits importants. Nous le ferons sans remettre en cause notre compétitivité. Il n'y a pas de partage et de redistribution possible s'il n'y a pas un amont de l'activité et de la production sur notre territoire. » Alors c'est bien beau, il dit des choses qui sont très vraies, mais je veux dire, voilà. Alors, cette si exigence voulez... nous conduira également à demander une contribution exceptionnelle aux Français les plus fortunés afin d'éviter les stratégies de défiscalisation des gros contribuables. Mais justement, ces stratégies de défiscalisation, elles sont liées au fait que ces entreprises très fortunées. Alors ici, on parle beaucoup de l'effet Laffer, hein, on parle beaucoup qu'il faut baisser les impôts pour augmenter l'assiette, et augmenter du coup les recettes fiscales, c'est délirant.
On l'avait vu avec le flat tax du dividende, ça fait monter les dividendes, ça fait monter les impôts.
Bien sûr.
Bon, personnellement, je veux dire, je crois que le plus important pour moi, c'est que ça calme le monde. Moi, j'ai trouvé.
Oui, alors d'accord, vous avez raison là-dessus.
Je jette pas trop la pierre.
Pas de révolution, c'est l'essentiel.
Moi, ce que j'aurais aimé, bien sûr, déjà, bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire après? Faut pas jeter la pierre tout de suite. Moi, ce qui me choque, c'est que je trouve qu'à ces niveaux de responsabilité, on ne devrait pas utiliser les mots justice fiscale comme ça. Oui. Justice sociale. Parce que quand vous réfléchissez bien, mettre le mot fiscal à côté de justice, c'est n'importe quoi. Parce que la justice fiscale, finalement, ça viole le principe de l'égalité devant la loi, vous voyez.
Bien sûr, oui, tout à fait, oui.
En fait, ça veut dire que c'est l'État qui s'occupe de faire les salaires, finalement.
Oui, mais tout à fait,
Il a fouetté qui s'occupait des salaires, quand on sait tous les problèmes qu'il a et qu'il a bien nommé d'ailleurs.
Et puis, ça
entrave l'efficacité économique, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont monter les bénéfices, les impôts sur les bénéfices des grosses boîtes. Mais quelles sont les très grosses boîtes? C'est des boîtes qui sont par exemple Total ou EDF, qui sont des boîtes qui ont des capitaux absolument gigantesques. Bon, on a besoin de beaucoup de fric de ce côté-là pour faire la conversion énergétique.
Bien sûr.
Alors, quand vous calculez les marges sur chiffre d'affaires, elles sont élevées, mais c'est parce que les capitaux engagés sont gigantesques.
Et ça, on comprend très bien, d'ailleurs, on lit dans votre livre. Voilà, on comprend très bien que les liquidités sont fondamentales dans la compétition que se livrent les entreprises.
Ils vont donc piquer du fric aux gens de la conversion énergétique.
Oui. Bon,
et à ce moment-là, il faudra bien après les financer par de la dette. Donc,
voilà,
c'est absolument n'importe quoi. Et je trouve que quand il y a tellement de projets, problèmes avec eux, je trouve que tout ce qu'il a dit sur le régalien, l'immigration, c'était très très bien. Il y a les guerres qui se profilent, donc il faut que l'armée, ça remonte. Vraiment que l'État s'occupe de ça. Et là, c'est ma thèse, si vous voulez, c'est que l'économie est extraordinairement bien faite.
Quand on la connaît bien,
et mon but, c'est de faire comprendre l'économie à tous les Français.
On dit la même chose dans cette émission,
absolument. Dès que vous mettez le système en concurrence, les profits sont contrôlés par la concurrence. L'allocation de ressources se fait très bien entre les métiers qui montent et les métiers qui descendent. Donc, je crois que l'économie concurrentielle, gérée par des gens honnêtes, c'est un système fantastique. Il faut se reposer sur lui. Et donc, ces histoires de justice fiscale, de justice sociale, je regrette que nos hommes politiques parce qu'on abîme les mots.
Et comme le dit Hayek, la justice, ça consiste à donner à Pierre ce qui est à Pierre, ou à rendre à Pierre ce qui est à Pierre, et rendre à Paul ce qui est à Paul.
Absolument.
Alors que la justice, soi-disant fiscale ou sociale, c'est déshabiller Pierre pour habiller Paul.
Et alors
que c'est deux choses qui sont absolument contradictoires.
Contradictoires, et c'est une atteinte à la liberté.
Oui, absolument, oui, bien sûr.
Alors après, il y a la générosité, si vous voulez, bon, les gens, entre guillemets, riches, en fait, on regarde en France, c'est très généreux, parce que je pense que le système... De bénévolat en France est un des plus élevés du monde.
Oui.
Donc, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de bénévolat. Donc, il y a beaucoup de gens qui donnent. Mais quand on donne, on n'aime pas dire. Parce que si vous dites que vous donnez, c'est plus un don.
On a été éduqué comme ça de moins en moins aujourd'hui.
Moi, à mon époque, on expliquait qu'il ne fallait surtout pas dire qu'on donne de l'argent.
Évidemment.
Donc tout ça, c'est un peu discret, alors que c'est des choses très importantes. Hein. Ça, il faut le dire. Donc, c'est très bien que votre émission le dise. Hein.
Bien sûr. Voilà. Et donc.
Donc j'ai regretté ça.
Oui, oui.
Mais bon, voilà. Alors il faut aussi calmer le jeu. Je pense que déjà le jeu a été calmé. Alors on va dire. Après, quitte à ce qu'on puisse maintenant discuter
sur ce
ferme.
Point, sur ce point, je vous donne raison.
On va discuter ferme après sur les histoires de ce qu'ils appellent improprement justice fiscale.
Oui, oui. Et alors, à un moment, il cite Pierre Mendès France dans la partie écologique. Il dit ne jamais sacrifier l'avenir au présent.
Ah, bah là, oui.
Alors c'est ce qu'il est en train de faire justement sur la fiscalité.
Bah, c'est tout le sujet de l'urgent et l'important. Si vous voulez. Moi, je disais toujours que l'urgent chasse l'important. Et donc, dans la direction que j'ai eue avec Essilor, évidemment, l'importance du patron, c'est de distinguer l'urgent et l'important. Et faire travailler sur l'important, parce que quand on est dans l'urgence, on ne travaille jamais sur l'important. Voilà.
Absolument. Voilà, et puis enfin, pour en terminer avec ce discours de politique générale de Barnier hier à la Chambre, il nous dit enfin, plus d'un demi-siècle après la déclaration prémonitoire du général de Gaulle, nous relancerons la participation, l'intéressement et l'actionnariat salarié, et pas seulement dans les grandes entreprises. Alors c'est extraordinaire, la participation quand c'est volontaire. Oui. C'est-à-dire que vous avez fait chez Essilor, enfin, d'ailleurs c'était là avant votre arrivée déjà,
bien sûr,
c'est quelque chose que vous avez contribué à développer,
non,
disons.
Pas complètement.
Voilà, c'est qu'il y a un actionnariat salarié qui est énorme.
Si vous voulez. Oui. Alors je pense que l'action à la salariée, ce serait une des idées à développer, je veux dire, pour la raison, c'est qu'on est dans la dèche sur la retraite, évidemment, à cause de Mitterrand, qui l'a descendu de 65 à 60. Parce que ce qu'on paye aujourd'hui, c'est les décisions de 50 ans. Je pense que la première truc dont on ne parle pas assez, c'est quand on a quitté la pensée de Rueff. Giscard a amené à travers Stoléru la pensée de Keynes, d'accord ? Stoléru était un type très intelligent, paix à son âme. Donc, il avait tas de mathématiques. Alors ça, c'est extrêmement grave parce que ça a fait croire aux Français que c'est l'État qui crée les jobs.
Oui, 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 bien sûr.
Ça,
et
c'est
les
la
métiers,
première,
oui,
hein,
oui.
D'accord. Et puis, la deuxième erreur monstrueuse, c'est évidemment Mitterrand qui a baissé l'âge de la retraite de 65 à 60,
oui, bien sûr,
et qui a parié sur la répartition.
Oui, oui, bien sûr.
Et on n'a pas du tout anticipé que dans les années qui venaient, les femmes sont passées de 2 enfants par femme à 5.
Oui.
L'âge de la longévité a explosé puisqu'elle est passée, je crois, de, je sais plus, de 75 à 82, ce qui fait que le temps de retraite est passé de 9 à 25 ans.
Ça a été intégré finalement dans le regroupement familial, c'est-à-dire que finalement, quand Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing créent le regroupement familial, c'est avec cette idée que la pyramide des âges commence à se rétrécir sur les âges les plus jeunes, disons.
Oui, alors ça, c'est l'idée que c'est l'immigration qui va compenser la natalité,
sûr,
mais alors, il faut absolument réfléchir à la natalité, à faire des vraies politiques de natalité, pas des compensations, mais réfléchir un peu aux raisons pour lesquelles les femmes font moins d'enfants. Je crois qu'il y a une vraie politique de la famille à faire, mais je vais revenir quand même sur les histoires, si vous voulez. C'est que on n'est pas du tout équilibré, puisqu'on est les retraités sont devenus. On avait, je crois, 4 cotisants pour un retraité sous Mitterrand, et on est arrivé à 7 cotisants.
Oui.
Bon, donc tout le monde sait que ça va pas. Et alors, évidemment, faut repousser l'âge de la retraite, évidemment, et on n'est pas. Tous les Européens vont à 67. Hein. Alors, je comprends encore que Barnier ne veulent pas mettre le feu aux poudres.
Ah oui, non, c'est sûr que là, ce serait la guerre.
Tout le monde sait, si vous voulez.
Mais c'est une vérité.
Tout le monde sait que 64, c'est beaucoup trop tôt. Puis, deuxièmement, c'est la capitalisation. Alors, je pense que la capitalisation, c'est un gros mot. Dès qu'on parle de capital, on se fait mal voir. Mais il faut regarder les chiffres, si vous voulez. Quand vous regardez le Dow Jones fait du 7% depuis 200 ans. Depuis que Mitterrand a décidé, vous savez de combien il a monté, le Dow Jones ?
Non, dis pas.
J'ai regardé avant l'émission.
Oui.
Il est multiplié par 30.
Ah oui, oui,
vous rendez compte ? Donc Mitterrand aurait mis un tiers en capi, on n'avait plus aucun problème.
Ah oui.
Alors la bonne façon de faire de capi, c'est de faire l'action à salarié. Je pense que maintenant, il faut
Mais un actionnariat salarié volontaire. Et puis d'ailleurs, cet actionnariat, il n'est pas forcément envoyé parce que...
Il ne peut être que volontaire. Hein,
oui, c'est ça.
Il y a un risque. Il ne peut être que volontaire. Hein.
Oui, alors que la participation, l'intéressement...
C'est obligatoire.
C'est obligatoire.
Mais alors, si vous voulez, quand vous voyez des sociétés comme Essilor, si vous voulez, on a joué l'actionnariat salarié, tous les retraités d'Essilor ont des retraites, je pense que... Avec le capital qu'ils ont accumulé, c'est 3-4 fois la retraite normale.
Bien sûr, bien sûr. Mais parce que Essilor est une entreprise qui fonctionne bien.
Bon,
il y a des entreprises comme Enron qui font faillite.
Voilà. Alors,
vous avez parfois des entreprises.
Je vais vous dire la solution. Oui. Alors, il y a l'actionnaire salarié, c'est un très mauvais scot parce que les politiques disent on ne peut pas faire un système dans lequel on perd son job et on perd ses économies.
Par exemple.
Les familles, quand vous demandez aux familles, elles vous disent écoutez, nous, c'est notre dignité de prendre tout le risque. On ne veut pas que nos employés aient le risque du boulot et le risque capitalistique. Bon, les syndicats, moi j'ai discuté avec eux, la CGD dit le risque c'est pour le patron. Hein? Donc ils n'en veulent pas. Et puis
pour les actionnaires en tout cas, c'est-à-dire que les actionnaires prennent un risque, alors que le salarié, on lui garantit son salaire
et la dignité,
en fin de mois.
Et la dignité du profit, c'est d'être passé par la case risque. Hein?
Bien sûr, évidemment.
Donc évidemment, c'est la dignité.
Parfois il y a des pertes, souvent.
Alors le marché financier, si vous voulez, le marché financier... été assez froid sur l'actionnaire salarié parce qu'il a peur que s'il y a trop de salariés au conseil d'administration, les décisions soient pures le salarié et pas l'actionnaire. Oui. Ça, c'est complètement faux. Parce que dès que le salarié devient actionnaire, dès que le capital représente une partie de ses biens, il change complètement. Et qu'est-ce qui a fait la puissance des Silor ? C'est que nous avions des actionnaires salariés, oui, pas des salariés actionnaires. Il y avait 5000 actionnaires salariés pour lesquels les actions des Silor, c'était plus que la maison.
Oui.
Et là, vous changez tout. Et à ce moment-là, les boîtes sont plus performantes. Et donc, je pense que la solution, je vais vous dire qu'il faut faire, c'est la solution des Américains, le 401k. Les gens investissent dans un fonds 50% dans un fonds diversifié,
oui, oui,
et 50% dans l'entreprise.
Oui, oui.
Et ça. Et ce système, il a atteint 10% du capital aux États-Unis.
Hein. Oui, oui, d'accord.
Donc c'est les Américains qui sont les champions de l'actionnaire salarié. Hein, faut pas l'oublier.
D'accord. Oui, mais enfin, et des retraites.
Et je pense que ça, ce serait un truc à faire.
Capitalisation.
Ce serait un truc à faire aujourd'hui. Et nous avons, il y a une quinzaine de boîtes. Et puis il y a préfonds.
Oui, ça c'est pour les fonctionnaires, oui.
Les hauts fonctionnaires, ils ont fait leur préfonds qui marche très bien.
Bien sûr, tout à fait. Oui, oui,
donc
oui,
il faut un jour. Et donc il faut utiliser la puissance du capital pour financer les retraites.
Oui.
Et ça suppose qu'on tape sur des mecs comme Piketty, toute cette bande-là, qui font peur à tout le monde.
Heureusement, ici, c'est avec plaisir, n'hésitez pas.
Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il est de plus en plus contesté. Hein.
Oui, évidemment.
Et
oui,
que j'ai observé depuis assez près les Américains qui ont décortiqué ses livres.
Oui, oui,
sont
oui,
en train de l'attaquer sûr, de plus en plus. Hein,
et il a toujours ses fanatiques, en France en tout cas.
Ah, bah, il a ses filles. Mais bon, j'espère que le bon sens un jour arrivera après vous. Il faut évidemment.
Arrivera jusque chez nous. Oui,
il, il faut évidemment utiliser la puissance du marché financier, qui est une invention absolument géniale, pour régler le problème de la retraite.
En tout cas, ce n'est pas la participation gaulliste qui
il faut aller plus loin, si vous voulez, parce que
il faut que ce soit libre, il faut que ce soit libre. Voilà, si quelqu'un n'a pas envie du tout de...
Ben, il ne le fait pas.
Voilà, il le fait pas.
Mais après, qu'il ne se plaigne pas.
Ah ben, évidemment.
Bien sûr. L'avantage de la capitalisation, c'est que vous tapez sur la capitale. La participation et intéressement, vous tapez sur la valeur annuelle créée. Vous voyez seulement. Alors que quand vous faites de l'action à salarié, vous tapez sur le capital créé. Donc, il y a un multiple qui joue. Vous voyez,
bien sûr,
puissant.
Oui, oui.
Mais il faut que ce soit pris par chaque personne. Chacun doit assumer. Et chez Silor, il y a des gens qui ne voulaient pas.
Hein. Oui,
oui, Des gens qui ont préféré avoir leur petit pavillon de banlieue. Et puis voilà, bon.
Ils sont passés avoir une superbe villa sur la côte d'Azur.
Ils sont passés à côté d'autre chose. Mais voilà, mais il faut que ce soit libre. Je suis d'accord avec vous.
Voilà, bien. Donc, nous allons passer maintenant à votre livre. Je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mon invité du jour est Xavier Fontanet. Le thème du jour est Entreprise et stratégie. Et nous parlons de son livre De la stratégie en entreprise, Conversation avec Pierre Pupier, édité aux Belles Lettres. Un livre absolument passionnant. Alors, ça se lit vraiment, ça se lit comme un roman policier, j'ai envie de dire, parce que surtout, alors, il y a, on va dire, deux parties au livre. Il y a une partie. Alors qui raconte un petit peu votre vie, on va en parler. Et puis ensuite il y a la partie Essilor, et la partie Essilor est très détaillée et vraiment alors on assiste à la conquête marché par marché comme ça. Enfin c'est très intéressant. On se demande mais par où va-t-il passer, comment ça va. Voilà, c'est vraiment un coup. Alors tout part. Vous avez une formation d'ingénieur, vous avez fait les ponts et chaussées, puis vous avez complété ça par un MIT, Massachusetts Institute of Technology aux États-Unis. Et vous, un peu par hasard d'ailleurs, vous entrez au Boston Consulting Group, le BCG, comme on dira dans la suite de cette émission. Au Boston Consulting Group, un petit peu, oui, par hasard, au moment où il se lance en France.
Ouais, ouais.
Et donc,
là, je crois beaucoup au hasard, vous voyez, alors, quelle chance. Et effectivement, j'avais signé avec Creuse-Loire, pour tout vous dire. Et la veille, un dimanche soir, un copain me dit, écoute Xavier, tu as fait quoi? Bah, tu rentres lundi, bah, écoute, tu diras que tu rentres mardi et tu viens au BCG. Il y a Bruce qui est là.
Bruce Anderson, qui est le fondateur.
Qui est un vrai génie, hein, qui mériterait 10 fois le prix Nobel.
Sans doute, oui.
Et alors, il était venu pour voir Ambroise Roux. Hein. Il était dans son beau costard.
Alors, Ambroise Roux, c'était le patron des patrons, disons, à l'époque.
À l'époque, enfin, c'était,
pas pour le CNPF, mais en tout cas.
Et puis, une heure avant le rendez-vous, que le téléphone d'un secrétaire, il annule Ambroise Roux. Il annule.
Ah oui.
Et bien, quand on dit, Xavier, tu discutes avec Bruce.
D'accord.
Et donc, le grand. Alors, Bruce était quand même ancien patron de Westinghouse, hein, donc c'était un grand monsieur. Et pas de problème, il discute avec moi comme un gosse. On s'amuse, on s'amuse pendant le déjeuner, on discute comme des fous. Et puis je me suis dit, attends Xavier, ce type est tellement génial. En plus, il est très simple. Et puis, il m'a embauché dans la journée, quoi.
Oui, donc,
j'étais embauché après le déjeuner, quoi, voilà.
Et donc, vous faites quelques
années. Ma vie a changé. Hein.
Oui, voilà. Et vous faites quelques années, Boston Consulting Group.
On s'amusait comme des fous parce que c'était au tout départ. Donc, au début, on était 5 ou 6. Donc, ça rajoutait à l'intérêt d'une affaire qui avait de l'avance conceptuelle, parce qu'il y a évidemment une avance conceptuelle au BCG, C'est ça qui est mis dans le livre.
Oui, bien
d'accord.
sûr, bien sûr.
Il y a une avance conceptuelle considérable, hein, d'accord, oui. On en parlera. Bien et sûr. Puis en plus, c'était le côté PME. Oui, ce qui fait que quand je suis passé chez Beneteau, je vais vous dire, j'avais aucun problème, on était dans les PME. Oui, donc on dit le conseil, conseiller, non pas du tout. On avait une petite PME, moi je l'ai connue, on était, au début on était 3 ou 4 au départ, BCG ils étaient 40. Quand je suis parti du BCG après 8 ans, on devait être une centaine. Aujourd'hui, BCG, c'est 22 000 personnes dans le monde.
Oui, oui.
Et c'est 1500 personnes en France.
D'accord, oui, bien sûr. Donc vous étiez...
Tout ça part de la croissance organique.
Hein. Oui, 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 oui.
Donc, alors moi, j'ai vécu que des trucs en croissance. Alors, j'ai peut-être beaucoup de chance, mais...
Ah, bien sûr, oui.
Ma vie, ça, en fait, j'ai vécu... Je suis toujours rentré dans des suiveurs.
Oui, oui.
Parce que tout était suiveur. Et j'ai toujours fini... Toutes les boîtes où j'ai été sont finies archi-leaders mondiaux.
Voilà.
Donc dans mon bouquin, il y a la recette pour devenir leader mondial.
Pour devenir chef de file, on dira en français, mais voilà.
Moi, j'aime bien leader mondial.
Non, mais alors, voilà,
chef de file,
leader mondial.
Les Français peuvent être leaders mondiaux, voilà. Hein. Ils sont dégourdis, quand on leur casse pas les pieds, ils peuvent être leaders mondiaux.
Alors, il faut peut-être rentrer un petit peu dans le détail de cette célèbre matrice BCG.
Oui. Oui.
Assez simplement, ça consiste, alors c'est quelque chose qui s'adapte bien aux sociétés qui ont des portefeuilles, avec divers produits, disons, et l'idée, c'est de les classer. Alors, il y a deux entrées à ce tableau. Il y a une entrée, c'est forte croissance et faible croissance. Alors, forte croissance, vous la mettez au-dessus de 5%, disons, si
un marché... Oui, ça dépend.
Ça dépend aussi des marchés.
Mais, bien sûr.
Voilà, c'est ce qu'on appelle une forte croissance. Et puis, il y a un deuxième élément, c'est la part de marché.
Voilà.
C'est-à-dire, est-ce que l'entreprise a... Alors, la part de marché, là, pour le coup, est une notion relative. Vous l'expliquez très bien. C'est que si vous avez 15% sur un marché ou le deuxième à 5%, vous avez déjà une très belle part de... C'est ce qu'on peut voir, par exemple, sur les marchés automobiles.
Voilà, un marché
très segmenté. Et alors, Mercedes, sur un segment de luxe, a très peu. Je crois qu'ils ont 1 à 2% du marché.
Mais sauf qu'ils sont leaders. Donc, ça se segmente.
Tout à fait. Et puis, dans d'autres cas, évidemment... Je sais pas quoi, si on parle de Coca-Cola et de Pepsi-Cola, la forte part de marché, là, c'est d'avoir à peu près 50% du marché. Ça, voilà, c'est ça.
Et alors,
ce qui est très intéressant, ce que vous détaillez, hein, c'est le fait que Bruce Anderson, utilisant les logarithmes, les courbes comme ça, montre que même sur un marché comme ça très très concurrentiel et qui paraîtrait incompréhensible comme celui des microprocesseurs, on peut tout à fait déduire la baisse des prix en fonction des volumes qui sont produits.
Voilà. Vous êtes exactement sur le sujet. Alors, je crois que derrière la matrice, il y a des pierres angulaires. Hein. Donc, la première angulaire, c'est la valeur de la part de marché.
Oui, oui.
Et donc, en microéconomie, je pense que par rapport à tout ce qui est courbe d'offres et de demande, il y a une véritable révolution qu'a amené le BCG, c'est la compréhension de la valeur de la part de marché. Et pourquoi vous avez une valeur à la part de marché? C'est que le BCG a découvert le concept de courbe d'expérience. Et ça, c'est vraiment Bruce Anderson qui a inventé la courbe d'expérience. Et il l'a découvert parce que quand il était président de Westinghouse, il a été pris dans un antitrust.
Ah oui.
Donc, il y avait un antitrust entre General Electric, la grande boîte connue, Westinghouse, Allis Chalmers. Et Allis Chalmers accusait General Electric de dumping.
D'accord.
C'est le dumping, bon.
C'est de vendre à perte.
Donc, c'est que c'est très, très grave, le dumping. Oui. Et donc, les trois présidents étaient convoqués.
Ça n'arrive jamais, hein, ça n'existe pas, hein, au fond, mais peu importe. C'est Henri Lepage en a parlé dans un de ses livres. Il a dit qu'il y avait un cas dans l'histoire de l'économie américaine où ça se passait. Enfin, bref.
Alors, justement.
C'est quelque chose dont on accuse, effectivement, les chefs
d'entreprise. On accusait General Electric de faire dumping. Alors, Bruce Anderson avait quand même l'intuition de la courbe d'expérience et il a exigé que les commissaires aux comptes prennent les comptes des trois sociétés. Les prix de revient des turbines sur 17 ans.
D'accord, voir la baisse.
Et, voilà.
Bien sûr.
Et alors, il est trouvé sur un truc absolument ahurissant, c'est que chaque courbe d'expérience, toutes les trois sociétés étaient sur la même courbe d'expérience.
Oui.
C'est-à-dire que la production de turbines, vous voyez, c'est les turbines qui font l'électricité, une turbine à vapeur, et elles étaient absolument sur la courbe d'expérience, mais il y a une différence, c'est que General Electric avait 4 fois plus de production que Allis Chalmers.
Oui.
Ce qui fait que quand le prix de revient de General Electric était à 100 et qu'il mettait le prix à 120, le prix de revient d'Allis Chalmers était à 200.
Oui, oui.
Et ça a duré pendant les 17 ans. Et donc, il y a une courbe absolument magnifique où on voit que c'est la courbe d'expérience, c'est la preuve absolue. Et s'il n'y a qu'une seule chose à retenir, c'est ça. Et donc, ça explique tout, puisqu'à ce moment-là, ça vous explique comment les prix descendent. Donc, on peut calculer les prix des microprocesseurs.
Et anticiper la baisse, surtout.
Anticiper la baisse
en fonction de la part de marché.
Et
du volume global de l'industrie.
J'ai des souvenirs chez Beneteau, quand on marchait très très fort, les First 42, qui étaient les gros bateaux de bataille mondiale.
Oui.
On s'amusait à mettre les prix de marché en dessous des prix de revient. Ouais, parce que le temps que... parce qu'on savait que les prix de revient allaient descendre avec le volume.
C'est ça, bien
alors
sûr.
Là, vous rendez compte,
donc
quand
vous anticipiez.
Bah, attends, voilà. quand vous avez pillé le coup, et pas les concurrents, je peux dire vous en faites plus qu'une bouchée, vous voyez.
Bien sûr,
et donc, là, je l'explique dans le livre. Et donc, cette espèce de part de marché, c'est la première idée. Hein.
Oui, oui,
alors,
tout à fait, oui.
La deuxième idée fondamentale du BCG, c'est un concept très important, c'est le concept de la constance de la rotation d'actifs. Alors, je m'excuse, c'est un peu technique.
Mais allez-y.
Mais on va y aller, voilà, puis je crois que vous allez tous comprendre, et je vais essayer de l'exprimer. C'est qu'il y a un rapport constant entre le chiffre d'affaires et le capital investi.
Oui.
Hein. Si vous voulez faire, mettons, vous voulez faire 1 million de voitures, eh ben, il faut 20 milliards d'euros de capitaux.
Ah oui.
Pour les usines, les stocks, les concessionnaires et le tremblant. Si vous voulez faire 2 millions de voitures,
il faut 20
40.
Milliards.
Il faut
40,
Il en faut encore. Et donc, la rotation. Et si vous prenez tous les bilans de tous les fabricants de voitures, vous verrez qu'il y a un rapport constant entre le chiffre d'affaires et les capitaux.
Hein. Bon. D'accord, oui.
Alors, à ce moment-là, c'est extrêmement important parce que qu'est-ce qui fait la croissance? La croissance, c'est de faire monter le capital pour monter le chiffre d'affaires. Et on monte le capital par le résultat.
Oui, oui.
Donc,
bien sûr,
il a donc amener un élément fondamental dans toute l'économie qu'on n'a jamais, c'est que vous reliez les facteurs de bilan avec les facteurs de chiffre d'affaires.
Oui, oui.
Par le concept de flux. C'est-à-dire que si vous avez une rentabilité, si votre boîte fait du 20% de rentabilité, si vous remettez tout l'argent, vous augmentez le capital de 20 et le chiffre d'affaires de 20, vous croissez à 20.
Oui, oui.
Si vous avez 20% de rentabilité et que vous prenez 10 en dividende, à ce moment-là, vous n'investissez que 10, vous croissez à 10.
Bien sûr.
Donc, c'est la même société.
Oui, oui, c'est ça.
Elle croît moins vite, mais elle crache du fric.
Oui, oui, bien sûr. Oui, oui.
Si vous avez une société qui fait du vin et que vous injectez 20, vous croissez à 40.
Oui, oui.
Donc, la même boîte, elle peut croître à 20, 10 ou 40, suivant que vous laissez le fric dedans, vous voulez tirer du fric, vous injectez. Ça, c'est l'élément fondamental à comprendre.
Oui, oui.
Et c'est le lien entre la finance et l'économie. Ouais. Et ça, et à partir de ça, il a fait le portefeuille. Hein, puisque dans le portefeuille.
Oui, oui. Alors donc, voilà. détaillons. Il faut peut-être aussi dire une chose,
les
prix sont alignés. En général, on peut pas vendre un produit plus cher que ses concurrents. En revanche, celui qui a une forte part de marché fait plus de bénéfices que celui qui a une faible part de marché. Et alors du coup, c'est ce que vous avez expliqué à l'instant, là, quand on assèche un concurrent, en disant, voilà, on le fait précisément parce qu'on sait qu'il ne pourra pas suivre.
Bien sûr.
Le premier va avoir une belle, un joli bénéfice, le deuxième un peu moins.
Un peu moins.
Le troisième, il va perdre un peu d'argent s'il veut s'aligner
absolument.
En termes de prix.
Alors
l'écart
est énorme, hein, puisque si le premier est deux fois plus gros en volume, et qu'il a des marges deux fois plus élevées, c'est quatre fois plus. Alors c'est là où l'économie est strictement extraordinairement bien faite, si vous voulez, c'est que les gens les plus efficaces, ceux qui prennent le moins de ressources, sont ceux qui ont plus de moyens d'investir.
Bien sûr, oui.
Donc en fait, c'est comme si les créateurs avaient inventé un système extraordinaire qui alloue automatiquement les ressources aux plus efficaces, vous comprenez?
Tout à fait.
Et c'est une économie pour la société.
Et on voit souvent ces réflexions dans votre livre, et c'est très agréable.
Je suis admiratif. Je suis admiratif de l'économie. Voilà.
Oui, moi aussi.
Et on tape tellement dessus qu'elle mérite d'être défendue. Et si les Français comprenaient mieux ça, je peux vous dire que les choses iraient mieux. Hein. Et c'est pour ça que j'écris le livre, en fait. Hein. C'est un livre de pédagogie pour que tous les Français comprennent ce que c'est que l'entreprise.
Hein. Je vais lire, d'ailleurs, des petits éléments,
des petits extraits,
merci. Des petits extraits du livre.
Ça me touche beaucoup parce que je vois qu'il vous a plu.
Alors, il y a une dimension quasi philosophique, dites-vous, derrière la concurrence. Évoquons le sujet, car la concurrence a mauvaise presse. On la qualifie souvent de loi du plus fort. Du coup, on la diabolise et on n'essaye pas d'en comprendre les ressorts. D'abord, la concurrence force à exceller, car on ne peut pas empêcher les concurrents d'être intelligents et d'exceller eux-mêmes. Elle vous fait donc progresser en vous obligeant en permanence à vous dépasser. Ensuite, elle force aussi à l'humilité, parce qu'on doit constamment se comparer. Enfin, elle est une forme de générosité spontanée, parce qu'elle provoque la baisse des prix qui bénéficie en permanence aux clients.
Et ben voilà.
Alors, c'est très important de dire ça.
D'expliquer ça, parce que tout le monde vous dit que c'est la loi du plus fort. Hein.
Voilà, c'est pas faux que c'est la loi du plus fort, mais c'est une loi du plus fort qui profite à tous.
Moi j'appelle ça le healthy competition. Hein. Ce qu'il faut, c'est le healthy competition.
Oui, d'accord.
Entre gens honnêtes.
Une concurrence saine
entre gens honnêtes. Entre gens honnêtes, attention.
Voilà, et puis alors vous dites aussi ailleurs, au final, le grand gagnant était le consommateur qui a vu les produits progresser comme jamais. Je pense qu'il est vraiment important d'expliquer à nos compatriotes que la concurrence est saine et fait grandir.
Alors justement, je vais rebondir là-dessus, parce que j'ai eu grosse discussion avec les économistes, parce que j'ai commencé quand même à travers BFM Stratégie. Là, je donne maintenant des cours à Polytechnique. Et
j'en parlerai tout ça.
Et donc, je suis en contact avec les plus grands économistes. Et évidemment, commencer à pousser ses idées, ça c'est dérangeant. Mais on en parle plus tard, peut-être.
Hein. Oui, non, on termine peut-être sur cette matrice BCG qui est la partie un petit peu ardue.
Je termine sur la courbe d'expérience, si on fait la matrice, si vous voulez. Regardez les microprocesseurs, vous voyez. Est-ce que vous savez de combien les prix des microprocesseurs ont baissé depuis 50 ans?
Ah, c'est monstrueux, puisque je crois que c'est divisé par deux tous les 18 mois.
Oui, mais alors, 50 ans, ça fait combien?
Ah, bah ça fait 2 puissances.
Ça fait combien? Ça fait 1 million.
Oui, là, c'est ça, bien sûr.
Donc, quand vous avez un iPhone, si vous voulez, s'il n'y avait pas eu l'effet d'expérience, vous auriez un appareil qui vaut 500 millions d'euros.
C'est ça, exactement, bien sûr. Oui.
Il y a combien d'iPhones dans le monde?
Je ne sais pas.
Vous rendez compte le capital qui est arrivé?
Ah non, c'est monstrueux.
Le bienfait pour l'humanité?
Tout à fait, oui.
Vous vous rendez compte, il y a 3,7 milliards de personnes qui ont un produit qui aurait valu 500 millions. Donc, ça met en l'air toute l'économie, cette histoire-là, dès qu'on commence à comprendre ça.
Oui.
Et donc, il faut absolument que tous les petits Français, comprennent l'effet d'expérience. Parce que vous voyez l'économie de façon complètement différente. Alors, on va en venir maintenant à la matrice. Le génie, si vous voulez, de Bruce Anderson, avec la constance de la rotation d'actifs, c'est d'introduire le concept de flux.
D'accord.
Bon. Alors, la matrice, c'est avant tout une matrice de flux. Donc, vous avez donc, comme vous le disiez très bien au départ, il y a deux dimensions. Il y a une dimension qui est la part de marché. Elle est forte ou faible. Donc, il met la part de marché. Donc, dans la matrice, tout ce qui est à gauche, c'est des fortes parts de marché. Donc, c'est là qu'on gagne du fric. Tout ce qui est à droite, c'est fait par marché, c'est là où on perd du fric, où on n'en gagne pas beaucoup. Bon. La deuxième dimension, vous l'avez expliqué, c'est la croissance. Donc la croissance, elle est très importante pour deux raisons, parce que quand elle est élevée, les marchés sont fluides, on bouge facilement les parts de marché quand ça croît. Quand ça ne croît pas, si vous gagnez la part de marché, vous faites perdre à l'autre qui réagit. Donc c'est très dur quand ça croît. Par contre, quand ça croît, le marché est fluide, c'est là qu'on peut l'échanger. Et deuxièmement, c'est là qu'il y a un problème d'investissement. C'est là que les flux sont négatifs. Alors, ça fait 4 cases.
Voilà.
Si vous êtes en bas à gauche, vous avez un gros résultat et pas de croissance.
Alors c'est
tout le bénéfice c'est du cash.
Bien sûr, oui.
Si vous allez
des liquidités qui vont pouvoir soit servir le dividende, soit permettre l'investissement dont vous parlez à l'instant.
Alors vous avez ensuite les étoiles, c'est forte part de marché, forte croissance. Vous gagnez du fric, mais comme ça croît, faut tout mettre dedans.
Voilà, c'est
donc
ça.
Donc une étoile, elle
ça
croit.
Absorbe beaucoup d'argent, beaucoup de capital.
Non, parce qu'elle la gagne elle-même. L'étoile, elle est équilibrée en liquidité.
Oui.
Celui qui bouffe du cash, c'est ce qu'on appelle le dilemme, c'est celui qui a une forte croissance et une faible part de marché.
Mais vous devez continuer d'investir quand même sur vos étoiles.
Oui, l'étoile génère elle-même le fric.
Oui, d'accord.
Donc elle est autosuffisante,
contrairement à la vache à lait, bien sûr.
Alors la vache à lait crache, l'étoile... Après, le problème, c'est le dilemme, c'est que je suis suiveur sur un marché qui croît. Donc je gagne pas d'argent, il faut investir. Donc c'est ça qui bouffe le cash. Donc le fric de la vache à lait, en général, il va chez les dilemmes.
D'accord.
Puis après, vous avez le poids mort, il gagne pas d'argent. Mais il n'a pas à investir. Donc il reste là, vous voyez. Donc, vous avez une dynamique dans une entreprise entre les vaches à lait, les poids morts, les dilemmes. Et alors, le truc extraordinaire, c'est que ça vous donne le coup d'œil stratégique.
Oui.
C'est comme Napoléon, vous montriez à Napoléon une bataille.
Oui, il comprenait immédiatement. Voilà,
c'est le coup d'œil stratégique.
Et alors, vous avez appris au BCG, à comprendre très bien.
Et il faut que chaque patron de PME soit capable de faire son portefeuille. C'est tout à fait possible, parce que toutes ces règles, ça va pour les grosses et les petites boîtes.
Alors, ce qui est quand même difficile pour une petite boîte, c'est qu'il faut connaître très très bien la concurrence. Alors parfois, dans certains domaines, les patrons même se connaissent, etc. Et donc, il y a beaucoup de domaines aussi où c'est assez difficile d'obtenir les informations, il faut aller les chercher.
C'est pour ça qu'il faut les faire, vous comprenez, c'est justement le truc. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui, si vous voulez. Parce que maintenant, avec Internet, moi je vous trouve même ChatGPT, je vous trouve tout de suite. Vous me passez une PME, je passe une après-midi, je vais vous dire avec ChatGPT, toutes les données qu'il a, je vous fais les portefeuilles tout de suite.
Parfois, ils disent n'importe quoi, ChatGPT.
On met en concurrence avec ses concurrents.
voilà,
on va demander aux autres ce qu'ils en pensent. On en met deux, trois en concurrence. Et donc, je vais vous dire le livre. La raison fondamentale de livre, parce que moi, je fais la retraite, si vous voulez. Qu'est-ce qu'on fait de sa retraite? Donc, moi, j'ai voulu donner la retraite à la pédagogie. Je veux que les Français comprennent bien ce que c'est que l'entreprise. Parce que une fois qu'on a compris l'entreprise, et surtout, c'est les entreprises qui donnent les jobs. C'est pas l'État.
Bien sûr.
Vous comprenez? Et à partir du moment où les entreprises fonctionnent bien et sont rentables, je peux vous dire que tous les problèmes sociaux se règlent. Et donc, il y a deux grands sujets, vraiment, pour moi. C'est casser Keynes. Parce que ça, c'est vraiment l'idée que l'État...
Alors, cette émission, vous êtes tombé au bon endroit. Nous cassons Keynes à chaque émission.
Et puis, la deuxième idée, c'est vraiment que c'est les entreprises qui donnent les jobs. Donc, à ce moment-là, il faut que l'État s'occupe du régalien. Il y a vraiment des chats à fouetter. Et l'entreprise et les syndicats s'occupent de l'économique et du social, vous voyez. Et je crois que pour que les gens comprennent ça, Et malheureusement, les syndicats pensent que c'est l'État qui fait les jobs. Donc, on a un système de paritarisme, un ménage à trois entre l'État, l'entreprise et les syndicats. Et l'État, quand il comble les trous, les problèmes de la retraite, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas dit qu'il y avait un trou de 70 milliards.
Oui.
On aurait dit qu'il y avait un trou, les syndicats comprenaient qu'il faut arrêter. Quand vous déresponsabilisez les syndicats quand l'État rentre dans le jeu et comble les trous des caisses. Donc, un énorme sujet, c'est ce que je dis à M. Barnier, c'est que, par exemple, c'est ce qu'a fait Schröder, c'est ce qu'a fait Jean Chrétien. Ils ont dit l'État n'a plus les sous pour combler les caisses sociales. Donc, à partir de l'an prochain, vous vous débrouillez comme des grands avec les patronats. Bon. Et à ce moment-là, moi, je m'occupe du régalien. Et ça, c'est à mon avis la grande réforme à faire.
Oui,
c'est sortir
sûr, oui.
du paritarisme.
Oui, bien
et
sûr.
À ce moment-là, je vous dis, vous réglerez tout. Parce que...
Qui n'est pas loin du parasitisme.
Oui, ben oui, c'est ça. Donc, je pense que c'est un des vrais sujets les plus importants. Oui. Alors, ce n'était pas possible hier de commencer à lancer ça. Parce que c'est... Mais
évidemment,
je pense qu'il faut apaiser. Il faut apaiser le débat et commencer à expliquer que c'est les entreprises qui font les jobs et pas l'État, que l'État fasse du régalien et puis qu'à ce moment-là, commencer à former. Alors, chez Essilor, les syndicats, ils avaient du capital.
Alors, donc, je vais juste vous interrompre une seconde. On va passer, Benoît va nous passer un bobino et je vous retrouve dans un instant. On vous retrouve dans un instant, à tout de suite.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Alors, de retour en studio, vous êtes dans le Libre Journal des économistes, l'émission Ultra Néo Turbo Libéral Sauvage de Radio Courtoisie avec Xavier Fontanet. Et nous parlons d'entreprise et stratégie autour de son livre « De la stratégie en entreprise » chez Manitoba Les Belles Lettres. Des auditeurs, une auditrice qui me dit attention aux interruptions. J'arrêterai de vous interrompre ou je vais faire attention.
Ah bon, c'est moi qui interromps.
Vous interrompez, moi je vais faire attention. Une auditrice nous dit vous n'avez pas compris qu'ils veulent vous éliminer, récupérer les données vers la data. Réveillez-vous, Frexit, sortons dans la rue. Les commerces à Quimper ferment, ils veulent tuer les indépendants. Comme lors du Covid, c'est évidemment en relation avec notre chef d'entreprise, Yannick Gelen, qui était en début d'émission.
C'est un vrai sujet.
Alors, je ne sais pas s'il y a de la méchanceté derrière, je ne sais pas s'ils veulent, si c'est intentionnel. Je crois que c'est
l'excès de...
C'est seulement, oui, j'ai envie de dire, c'est l'excès de bonté. C'est qu'ils pensent qu'il suffit de dire...
Et l'excès de fonctionnaire, surtout.
Oui, l'excès de fonctionnaire.
Ils justifient leur présence en mettant des normes.
Voilà, et donc ils se disent, ce serait mieux si les entreprises n'émettaient plus de carbone. Oui, c'est vrai que ce serait mieux, c'est juste que ce n'est pas possible. Ouais. Voilà, et ce serait mieux si on pouvait tout tracer. Oui, mais c'est mieux, mais ce n'est pas possible. Et c'est ça le problème, c'est que la notion de possible et d'impossible les a quittés. On voit ça avec les voitures thermiques. C'est, les mecs pensent qu'en décidant comme ça, qu'on passe du thermique à l'électrique, tout le monde va suivre. Mais non, et on se rend compte qu'il y a d'énormes problèmes, que c'est des problèmes qui sont absolument insolubles.
C'est le problème où la fonction publique, il faut absolument qu'il rentre dans les entreprises, qu'il passe 5 ans ou 6 ans dans les entreprises, dans des PME, à des jobs opérationnels, pas à des jobs de vendeurs,
bien
à
sûr,
des jobs de producteurs,
bien sûr.
Des jobs de DRH qui se prennent des prud'hommes, vous voyez, c'est ça qu'il faut, vous comprenez.
Encore une auditrice qui dit « Bonjour messieurs, émission très intéressante. Une question, quand votre invité dit que le Dow Jones a été multiplié par 30 depuis l'ère Mitterrand, quelle démarche faut-il faire pour en profiter et éviter de jouer au casino avec telle ou telle valeur boursière? Y a-t-il des valeurs indexées uniquement sur le cours global de la bourse ?» Bien courtoisement. Oui, alors, je vous laisse répondre, mais effectivement, miser sur le Dow Jones pour un Français, c'est pas facile.
Oui. Alors, si vous voulez, je crois qu'effectivement c'est une vraie question qu'il faut... La bourse, alors, les règles montrent que si vous avez une vingtaine de sociétés... Si vous avez une vingtaine de sociétés, vous avez atteint une diversification totale, vous voyez ?
Oui, oui.
Donc, il suffit. Alors, moi, ce que je vous conseille, moi, j'aime bien prendre des sociétés que je connais plutôt que des portefeuilles.
Oui.
Il suffit que vous divisiez l'argent que vous voulez investir en 20 et vous allez acheter des boîtes.
Oui, oui.
Alors, moi, je vais vous dire, moi, j'ai toujours eu la chance de connaître que des parcours boursiers absolument exceptionnels de leaders mondiaux.
Hein. Bah, oui.
Donc, L'Oréal, j'ai connu depuis très longtemps Schneider, L'Oréal, Air Liquide, toutes ces magnifiques boîtes françaises. Moi, la règle, c'est des boîtes à PDG qui durent. Vous voyez, parce que capital patient, il faut qu'ils soient leaders mondiaux.
Oui.
Moi, je
pour
disais,
cette histoire de part de marché dont vous parliez tout à l'heure.
Oui. Moi, je disais, alors la Chine, c'est compliqué, mais j'ai toujours dit qu'il faut qu'ils soient leaders en Chine, parce que vraiment la marque d'un vrai leadership mondial, c'est quand la boîte est leader en Chine. Et si leur était archi leader en Chine, il est toujours d'ailleurs. Alors maintenant, bon,
il y a... Mais c'est quand même un pays communiste qui reste communiste. Il n'y a toujours pas de possibilité de changer le yuan ou le...
Oui,
le
mais si vous voulez, du temps de Deng Xiaoping. Alors maintenant, il y a une période, combien d'exil...
Oui, il y a une période qui est très retour au communisme quand même. Oui, oui.
Mais les boîtes continuent à tourner, si vous voulez. Oui. Et puis effectivement, je pense que les transferts de flux sont plus difficiles, mais vous les réinvestissez sur place, si vous voulez. Et si vous prenez très long terme, les boîtes dureront plus longtemps que les... Les boîtes durent plus longtemps. Moi, j'ai connu 13 ministres des Finances. Hein, donc, durent plus longtemps que les... Oui. Donc, vous prenez des boîtes diversifiées. Et moi, je conseille comme Berkshire, là, de Warren Buffett, de prendre des boîtes que vous comprenez, vous voyez.
Oui, ça, donc, bien sûr. Oui, c'est voilà. Ça. N'investissez pas sur une affaire dont vous ne
comprenez
pas.
Allez en chercher quand même aux États-Unis, au Japon, en Corée, en France, en Allemagne. Et vous pouvez vous faire des très beaux portefeuilles, très très bien faits. Et comme ça, vous suivez les sociétés une à une.
Mais c'est très difficile d'investir sur le Japon ou sur les États-Unis.
Vous achetez du Sony, vous demandez à votre banque de vous acheter des affaires américaines. Alors, sur les États-Unis, il y a certaines banques qui n'ont pas le droit de travailler avec les US. Hein.
Ah oui, d'accord. Oui.
Mais vous pouvez. Ou alors, vous demandez des portefeuilles diversifiés, puis ils vous donneront les portefeuilles. Hein.
D'accord.
Mais c'est évident.
Je ne joue pas
en bourse. Si vous voulez que... Moi, je connais bien tous mes amis patrons de très belles boîtes françaises du 440. Si vous voulez, on est restés amis, on a été amis pendant 40 ans, on continue à discuter. Ces boîtes sont splendides, si vous voulez. Elles ont une présence dans tous les pays. Donc, vraiment mettre son argent entre les mains de gens. Alors, moi, je crois qu'il faut des gens qui durent. Hein. Il faut des boîtes à PDG qui durent. Hein. Ça, c'est très important.
Oui, oui.
Hein, vous voyez, des boîtes comme Nestlé, les PDG font tous 15 ans. L'Oréal, j'ai fait 23 ans, vous voyez. Oui, oui. Donc, toutes ces boîtes-là, PDG qui durent, le Air Liquide aussi, vous voyez.
Oui, oui,
bien sûr. Schneider aussi. Oui, donc, tout ça, c'est des boîtes à PDG qui durent.
D'accord.
Ils sont leaders sur le marché. En général, ils sont sur des beaux marchés. Vous voyez. Ils ont tous un truc solide là-dessus, l'argent est bien placé. Par contre, il faut diversifier.
Hein. Un conseil, vous dites partager en 15 ou 20 entreprises.
Mais avec votre banquier, vous ferez ça très bien.
D'accord. Non, mais très intéressant. Mais écoutez, j'espère que cette auditrice tirera profit des conseils que vous lui transmettez, que vous lui donnez. Donc, continuons un petit peu. Alors, vous commencez après être entré au Boston Consulting Group, vous continuez votre carrière chez Beneteau,
oui.
Et là, vous pouvez appliquer immédiatement voilà ce que vous avez appris sur ces
marchés,
etc. Alors, vous nous avez parlé des gros bateaux tout à l'heure, hein, de la façon dont vous avez réussi à sécher la concurrence.
Non, quand on est arrivé, si vous voulez, le sujet n'était pas tout à fait ça au départ. Le bateau est arrivé quand on a commencé. Non, au tout départ, l'entreprise était extrêmement endettée, hein, puisque... C'était une preuve magnifique de la courbe de la rotation d'actifs et que Madame Roux, en fait, la présidente, qui est une femme absolument géniale, était très complexée par sa politique financière, hein, parce qu'elle ne payait pas de dividendes elle était très endettée. Hein, elle était endettée à une fois et demie. Moi, je lui ai expliqué, Madame Roux, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que grâce au fait que vous ne payez pas de dividendes et que vous vous endettez, vous avez un taux de croissance beaucoup plus rapide que votre concurrent Jeannot. Qui, lui, n'est pas endetté et paye 70% de son bénéfice en dividende, vous voyez.
Oui, c'est ça.
Donc, même rentabilité, vous croissez à 40% et lui, alors vous êtes un peu moins rentable, mais vous arrivez à faire du 40% et lui, plus rentable que vous, croît à 7%.
Oui.
Alors, je vais vous dire que si vous faites 40% de croissance contre 7%, en 4-5 ans, vous le battez.
Évidemment.
Et c'est là-dessus qu'elle a dit, Xavier, si ça vous va vous rentrer.
Hein. Ah oui.
Donc, les problèmes que j'ai eu au départ, c'est de rentrer dans une entreprise qui court après le cash.
D'accord, oui.
Parce qu'il fallait,
je me rappelle très bien, ça m'a
marqué toute ma vie. Madame Roux suivait le cash comme le lait sous le feu tous les mois.
Ah ben, de toute façon, tous les mois, il faut payer les alertes, tous les mois.
Et donc, je vous assure, on facturait les concessionnaires, et on allait à la banque, au Crédit Lyonnais, et on montrait les factures, et à ce moment-là, ils faisaient les payes.
Hein. Ah oui, oui, bien sûr.
Vous vous rendez compte le truc. Donc, moi, j'ai vécu, bien que moi, ma famille, ce sont des il y a des notaires, il y a des hommes politiques, des médecins, on n'est pas du tout dans le fric, c'est pas les... Là, j'ai compris... commencer à comprendre le problème du fric, vous voyez, par la liquidité.
Oui.
Et ça m'a sauvé du temps des silos. On en parlera après.
Bien sûr.
Et donc après, on s'est rendu compte que nos concessionnaires aussi, donc nos agents, il fallait les financer parce qu'il a... Donc j'ai passé mon temps dans les bilans.
Vous avez fait un gros travail.
Donc on a fait un gros travail avec
les... Port par port.
On a fait un travail de... Part de marché, port par port. Moi, j'allais voir les familles pour demander les héritages plutôt pour qu'on mette du fric dans le concessionnaire. Et c'est ça qui fait la force de Beneteau. Ça a été bien sûr des produits extraordinaires, mais ça a été un réseau exceptionnel. Et quand Jeannot est tombé, parce que évidemment, Jeannot est tombé comme prévu, avec l'effet d'expérience, on l'a écrasé.
Ils appartiennent à un groupe américain, c'est ça,
ce moment-là, Alors justement, le poteau rose, c'est que le groupe américain, c'était Piper. Et en fait, il tirait du dividende de Jeannot pour financer les avions.
Ah oui, voilà,
donc je
ne
jette pas la pierre aux amis de Jeannot, parce que le patron de Jeannot, il était filiale de truc et on lui demandait des dividendes.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Et c'est ça qui l'a tué. Donc c'est la bagarre dans les avions qui fait que Jeannot, Benedetto. Alors c'est là où le hasard est. Le hasard joue beaucoup.
Et,
alors,
c'est et là la où... morale, et la morale, parce que morale, c'est ça, enfin, on imagine toujours mais... que les entreprises se servent du dividende comme ça en permanence. Non, non. Celles qui font cette erreur, voilà. Finalement, de trop se servir en dividende, peuvent aussi prendre le risque de faire faillite.
Alors, c'est là aussi où le portefeuille est absolument génial. Dès qu'on a jamais montré à Mamrou le portefeuille de l'actionnaire de Jeannot, on a aussi dit qu'on allait le rouler dans la farine parce qu'on savait qu'il avait un. Il avait un problème énorme avec son actionnaire.
Oui. Et alors c'est passionnant à lire. Hein, je conseille vraiment ce livre aux auditeurs parce qu'on voit vraiment dans le détail, effectivement, et puis que vous appliquez cette matrice BCG, concessionnaire par concessionnaire,
absolument. Etc. Voilà, absolument.
Donc c'est dire l'efficience voilà. de cette gestion par portefeuille. Alors ensuite, d'aller chez Eurest, on va pas en parler trop longtemps parce que sinon on n'aura pas le temps de parler des Sealers. Mais chez Eurest, vous vous rendez compte que dans le service, Eurest, c'est de la restauration collective, hein, dans des cantines d'entreprises, d'hôpitaux, d'écoles, de maisons de retraite, etc. Et vous vous rendez compte que c'est la densité géographique qui compte et qui est le facteur déterminant.
C'était intéressant, ça a été le concept de segmentation stratégique. C'est-à-dire que normalement, quand vous avez bien défini votre marché, les leaders gagnent plus d'argent que les autres.
Bon. Oui.
Et l'organisation de reste était mal foutriquée, c'est-à-dire qu'ils avaient organisé par produit.
Oui, c'est ça. Oui,
on voyait nulle part le reflet de la relation par marché. Rentabilité dans l'organisation. Donc, on travaillait sur une organisation merdique. Et
parce que ça n'était pas segmenté par secteur géographique.
Mon apport a été de dire qu'il fallait changer l'organisation de reste et passer du produit à la région. Et alors, alors moi, vous rendez compte, je venais de reste. Donc, j'étais un ancien. Attendez, fils de Gèze. J'ai fait des ponts, des chaussées. Je vais au MIT. Je fais des bateaux à voile. Et on me balance patron de reste.
Oui.
Alors, mettez-vous à la place des employés, dites, qu'est-ce que c'est que ce mec?
Non, bien sûr.
Donc, j'avais un vrai problème de crédibilité. Et donc, le jour où je leur expliquais que la relation rentabilité par marché, c'était pas le produit, mais c'était la région.
Et que ça collait avec les chiffres.
Et que ça collait. Je me rappelle, j'avais fait un grand exposé. Oui. Ils étaient tous là, ils étaient 500. Hein. Je me rappelle, j'ai 1000 graphiques.
Oui.
Je vais vous dire, d'un seul coup, il y a eu un bruit. Ils ont parlé entre eux pendant 5 minutes, c'était impossible.
J'étais
devenu le chef comme ça.
Ah oui, très bien.
Parce que j'avais apporté la solution. Et après, on avait lancé la stratégie des petits cochons. C'est-à-dire qu'on avait dit, les cantines, c'est exactement comme les cochons. Plus il y a de cochons au kilomètre carré, plus le prix de rien du cochon est bas. On avait des cravates en cochon, on avait des chaussettes de cochon pour que tout le monde comprenne qu'on densifie. Voilà.
Et puis, donc, ça a été mon apport. La charcuterie, ça va bien ensemble.
Ça a été mon apport à la maison Eurest, qui est devenu leader mondial au passage.
Et puis, oui, très bien, très bien.
Co-leader mondial avec Sodexo. Hein.
Et puis, alors ensuite, donc, pour des raisons personnelles, je crois, vous quittez.
Oui, les classes. Il n'y avait pas d'école.
Il n'y avait pas d'école pour vos filles.
Je voulais quand même que je me suis dit, on ne va pas les mettre en pension. Je suis amoureux de mes filles, donc on ne va pas les mettre en pension. Et donc, on est rentré à Paris. Je n'avais pas de job.
Oui, bien sûr. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils sont à l'écoute de Radio Courtoisie. L'émission s'intitule Libre Journal des économistes. Mon invité est Xavier Fontanet. Et nous parlons autour de son livre De la stratégie en entreprise. Nous parlons d'entreprise et de stratégie. Donc. Et nous abordons un chapitre très important du livre. Ça doit constituer après la moitié du livre. C'est Essilor. Alors, c'est une conquête, c'est extraordinaire parce que il y a non seulement cette analyse stratégique que vous faites de la situation au départ, mais ensuite, c'est de la conquête marché par marché et l'Europe et les États-Unis et la Chine et l'Inde et l'Amérique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et à chaque fois, alors là, je ne sais pas si on doit parler de stratégie ou de tactique, mais en tout cas, à chaque fois, c'est des choses différentes. D'ailleurs, comment vous définiriez la stratégie, la tactique?
Si vous voulez, donc la stratégie, c'est s'occupe vraiment de ce qui fait la différence. C'est ce qui fait la différence entre une entreprise qui marche et qui ne marche pas. Donc, c'est les sujets fondamentaux et c'est évidemment le positionnement stratégique qui explique tout. Hein. Donc, c'est ça. La tactique, c'est les opérations. Hein. C'est décliner les opérations. Alors, une mauvaise stratégie ne sera jamais réparée par une bonne tactique.
Hein.
Par contre, évidemment, une très très mauvaise tactique peut vous bousiller une brillante stratégie. Donc, il est très important que tous les gens dans la société comprennent la stratégie. Oui. Alors moi, j'ai toujours pris l'exemple de Napoléon, qui était un type qui a des côtés épouvantables, mais des côtés absolument géniaux. Napoléon avait très très bien compris ça. Et à la différence de Clausewitz, Napoléon allait toujours expliquer la veille des batailles, le plan du lendemain, il allait dans les tentes.
Ah oui.
Alors que Clausewitz se mettait à 20 km de la bataille, dans un château, et se faisait amener les cartes toutes les heures pour voir comment ça bougeait. D'accord, et à la fin de sa vie, Clausewitz a reconnu que Napoléon était plus fort que lui. Il a eu une phrase absolument géniale. Il a dit, en fait, les Français battaient les Prussiens parce que les Français s'appropriaient la stratégie.
Ah oui.
Et ils étaient meilleurs parce qu'ils avaient compris, alors que les Prussiens, plus nombreux et mieux équipés, ne faisaient qu'obéir au chef.
Oui, c'est ça. Oui.
Ça, c'est le truc fondamental. Et c'est très important avec les Français. Les Français, il faut leur expliquer la grande stratégie. Oui. Et une fois qu'ils ont compris la grande stratégie, ils sont beaucoup plus calmes qu'on croit.
Mais c'est pas que français, c'est mondial.
C'est mondial.
Les gens aiment bien savoir pourquoi ils travaillent.
Voilà. Et quand vous expliquez, c'est mondial. Et quand vous expliquez vraiment... Alors les meilleurs, c'est les Japonais, qui prennent beaucoup de temps. Les patrons japonais prennent beaucoup de temps à aller dans le détail. Ils font plus dans les détails que nous. Mais c'est important partout. Et alors moi, ça a été mon cœur. Alors moi, je suis devenu prof, je vous dis, c'est très simple.
Oui, oui.
Bon, j'ai connu Essilor quand je suis rentré, c'était 10 000 à peu près. Dès que l'entreprise a dépassé 30 000 personnes, je me suis rendu compte que ça a dépassé mes forces. Je suis devenu prof.
Ah, oui.
Je suis devenu prof de stratégie, pas compliqué. Ah, oui. Et donc, en fait, on avait une organisation où les patrons étaient leurs chefs. Donc, ils avaient complètement compris la stratégie.
Ah, oui.
C'était devenu tous des stratèges.
Ah, oui.
Et donc, moi, on laissait les choses se faire. Moi, je prenais l'exemple de Nelson. Vous savez, Nelson, il dormait pendant les batailles.
Oui, oui.
Il lançait la bataille, il dormait. Et il disait,
vous ne me réveillez
que pour les mauvaises nouvelles.
Oui, la phrase de Napoléon.
Ils avaient la même chose. Napoléon dormait pendant les batailles, et vous ne me réveillez que pour les mauvaises nouvelles.
Oui, bien sûr,
je veux dire, sans me prendre pour Napoléon ou Nelson, parce qu'il y a ça, mais je pense que c'est un point clé. Le point clé, c'est que les chefs sur le terrain doivent avoir compris la stratégie. Et alors, en échange, être transparent, vous voyez. Hein, alors, le chef, évidemment, il faut qu'il gère. Il appelle le grand chef que quand c'est très grave. Il ne faut pas emmerder le grand. Il ne faut pas appeler le grand chef pour un petit truc qui peut arriver.
Évidemment, évidemment, bien sûr.
Et ça, c'est bien de bon. C'est toujours les types qui me dérangent pour des petites choses. Je les mets de côté, si vous voulez. Ils ne sont pas capables, vous voyez. Et donc, il y a tout un art. Ça, cet art se construit dans le temps, vous voyez. Et donc, moi, j'ai eu beaucoup de temps avec Essilor. J'ai eu 23 ans. Donc, c'est le temps qui permet de construire les équipes. C'est pour ça que je disais à la dame qui conseille boursiers, il faut la durée, hein. Il faut acheter des actions de PDG qui durent.
Oui, bien sûr. Oui, d'accord. Ah, bien sûr. Oui. Alors, de toute façon, les auditeurs qui sont intéressés par ça liront le livre.
Il faut lire le livre, ça leur plaira. Et puis après, il faut le faire lire. J'ai actuellement des grands-mères qui l'achètent pour les cadeaux de Noël pour les petits-enfants.
Hein. Eh ben, excellente idée.
Alors, vous voyez, des grands-mères, des femmes très intelligentes qui ont passé toute leur vie à s'occuper des enfants qui auraient pu faire des études très brillantes.
Ouais, oui.
Eh bien, à 80, j'ai deux tantes qui ont 92 ans. Et je leur ai donné le bouquin, ils m'ont dit, mais Xavier, c'est incroyable, on comprend tout. Je passe une commande de 25 pour les petits-enfants. Parce que je pense, c'est marrant.
Et
moi, ce qui me plaisait beaucoup dans l'affaire, c'est bien sûr la commande, mais ils m'ont dit surtout, on a tout compris.
Oui, bien sûr. Non,
parce que le but, c'est que tout le monde comprenne.
C'est une conversation et c'est toujours, ça rend toujours les livres assez abordables.
Plus conviviaux.
Donc, c'est une conversation et ce Pierre Pupier avec lequel vous parlez.
Ben, c'est un privé d'Igouidi. Hein. Alors, cette histoire, elle est marrante. J'ai écrit un livre qui s'appelait Conquérir le monde.
Investissement privé, oui.
Voilà. Et lui, il avait aimé mon précédent qui s'appelait Conquérir le monde avec son équipe. Et il m'a dit, Xavier, je suis privé d'Igouidi, il faut que vous donniez vos recettes. Bon. Alors, et donc, c'est comme ça qu'on l'a fait. Hein. Et on est remonté des Essilor, Beneteau, Eurest et BCG. Voilà le bouquin.
Alors un message d'un auditeur. Bonjour, j'ai lu ce matin dans les médias que Madame Hidalgo voulait interdire la vente de gazole à Paris. Trop fort, j'ignorais. Étant dépanneur en système de sécurité électronique, je crains de ne plus pouvoir intervenir rapidement et surtout à perte. J'imagine les futures files d'attente dans les stations proches de Paris.
Oui,
en effet, c'est encore une décision stupide.
Moi, si j'étais homme politique, je profiterais du fait que la dette c'est 10 milliards pour reprendre le contrôle et puis redemander les élections. Hein.
Oui,
ah, mais je pense que...
Depuis que vous avez quitté Essilor, en effet, vous avez écrit des livres, vous êtes graphomane presque, puisque en 2010, vous écrivez « Si on faisait confiance aux entrepreneurs, entreprises françaises et mondialisation ».
Alors, c'est la confiance. Vous avez raison. Quand j'ai pris ma retraite, j'ai fait une chose très contre-intuitive. normalement des gens comme moi, si vous voulez, rentrent dans tous les conseils d'administration des grosses boîtes du CAC 40. Hein.
Oui, alors vous avez été administrateur de grand nombre d'entreprises. L'Oréal, Schneider, voilà. Fondation Carrefour, Crédit Agricole.
Bon, j'ai eu des offres des plus gros fonds private equity du monde.
Ah oui.
Pour devenir administrateur, en général, c'est des gens qui avaient investi dans Essilor, donc qui avaient fait des tels multiples qu'ils voulaient m'avoir comme administrateur, mais j'ai voulu rester français. Voilà. Oui. Donc, ça tombait très mal parce que c'était en pleine période Hollande. Et j'avais donc des ISF qui devaient être 4 ou 5 fois mes revenus. Donc, mon premier problème, ça a été de régler ça, et j'ai réglé ça avec des fondations. Voilà.
D'accord, oui.
Donc, j'ai décidé de rester français. Et donc, j'ai trouvé une solution extrêmement élégante, c'était l'abandon des usufruits. Donc, j'ai abandonné les dividendes, ce qui me permet de ne pas avoir l'ISF.
Ah oui.
Et donc, c'est ça qui m'a mis, dans la fondation. Et j'étais donc abrité par HSC. Alors, tout ça, ça a été complètement de la chance. Hein.
Oui.
C'est Daniel Bernard, qui était l'ancien patron de Carrefour, qui était président de la fondation HSC, qui m'a tout de suite donné qui m'a permis d'obtenir des impôts, le droit de ne pas... comme j'abandonne tous les dividendes, j'ai plus d'ISF à payer. Ça qui m'a
sauvé. D'accord. Oui, oui,
et
oui.
Du coup, je suis rentré dans les fondations, donc j'en ai fait 2.
D'accord.
Et ça m'a mis comme prof à HSC.
Oui, oui.
Donc j'ai commencé mes premiers contacts avec les étudiants à HSC. Je suis devenu prof.
Oui, c'est bon, ça. Vous étiez déjà prof quand vous étiez chez Essilor.
Voilà, donc ça a très très bien passé.
Ah, oui.
J'ai fait un autre bouquin qui n'est pas là d'ailleurs, qui est un vrai bouquin de stratégie où c'était mon cours d'HSC, ça a eu un énorme succès. Et puis alors, j'ai eu les enfants d'Alain Veil comme élèves.
Oui, oui.
Et j'ai été convoqué par Alain Veil, le patron de BFM, qui m'a dit, écoutez, monsieur Fontanet, le cours d'HSC, je le veux sur BFM.
Alors, oui, moi, alors c'est business stratégie.
C'était un moment,
BFM stratégie, oui, oui.
C'était un élément très important de ma vie, parce que c'est encore une fois le hasard, vous voyez. C'est du hasard du même niveau que celui de la rencontre de Bruce Andersen.
Oui, alors c'est du hasard, j'imagine que cet ami vous a proposé de voir Bruce Andersen, c'est sans doute qu'il pensait que vous étiez assez malin pour soutenir la conversation.
Bien sûr, et puis c'était pas un hasard complet avec Alain Veil, puisque ses enfants avaient adoré les cours,
oui.
Et donc ça m'a propulsé dans la télé, quoi.
C'est des émissions qu'on peut voir sur YouTube, d'ailleurs, avec Frédéric Simotel.
Les Échos m'ont demandé d'être éditorialiste, donc j'ai été éditorialiste. Donc, j'ai découvert qu'on pouvait écrire. Je vous avoue que je découvrais, parce que moi, j'étais ingénieur. Hein, donc, et puis, je me suis mis à Siri, et vous savez, je dicte les livres, ils sont presque bons du premier coup.
Oui.
Donc, c'est pour ça que le fond... En fait, le livre, il est très facile, parce que c'est une conversation.
Oui, c'est ça.
Vous savez pourquoi ? Ce livre, il a été dicté.
Oui.
Sur mon iPhone, par Siri.
D'accord,
et après, je corrige un tout petit peu, mais c'est un livre dicté.
Oui.
On l'a écrit en rien du tout. Quoi.
D'accord.
Et donc, j'ai découvert maintenant cette capacité qui m'amuse énormément. Oui. Et alors, BFM, ça a été considérable pour moi, parce que dès que vous commencez à voir la télé, ça vous donne énormément de monde.
Oui.
Et alors, le plus intéressant, c'est que les très, très bonnes émissions, elles circulent. Oui. Et alors, les dernières, je vous donne des exemples, mais à tomber raide... Je me suis amusé à faire des émissions sur la méthanisation parce que je travaille avec les éleveurs de porc. Vous savez, au bout de 3 mois, ça arrive jusque chez Thierry Breton.
Oui.
Donc, au téléphone en disant, écoutez, est-ce que vous pourriez nous aider là-dessus, vous voyez. Et donc, quand une très bonne émission, ça part sur le net. C'est quoi? Alors, moi, je suis devenu fanat de ça.
Oui.
Et puis, alors aussi, j'ai été appelé par les écoles des mines et de Polytechnique et qui m'ont demandé de faire un cours spécial pour Polytechnique et l'école des mines. Donc, je suis en train de réfléchir à ce que peut être un cours d'économie, alors radicalement différent de tout ce qu'il y a, parce que
je
me suis procuré tout ce qu'on donne comme cours. Alors, je ne jette pas la pierre aux profs, hein. Mais attendez, on apprend aux enfants des trucs qui n'ont strictement aucun sens. Des multiplicateurs, des équations.
Le multiplicateur keynésien.
Il continue, il le complique. Et alors, quand je discute avec les élèves...
Ça ne marche pas. Ça fait depuis 1936, sortie de la théorie générale, que ça ne marche pas.
Alors,
et même avant, puisque le keynésianisme a précédé Keynes d'une 20aine d'années.
Absolument.
Enfin, peu importe.
Ça ne marche pas.
Et donc,
maintenant, ça ne marche toujours pas, puisqu'on a bien vu que comme on dépense plus que les autres...
C'est le diviseur keynésien.
Et bien voilà, le multiplicateur est nettement en dessous de 1. Voilà.
Et
donc, j'ai conçu petit à petit un cours, à la fois que les enfants comprennent, que les jeunes comprennent. Alors, il est vraiment révolutionnaire, hein, parce que c'est populariser les idées du BCG. Et je rajoute toute mon expérience personnelle, plus des trucs qu'on ne va pas raconter là parce que c'est un peu compliqué.
Oui.
Et donc, les gens de l'X et des mines sont enthousiastes. Donc, on va voir ce qu'on fait. On va voir ce qu'on fait. Donc, c'est un énorme sujet. Puis alors, je me suis amusé surtout. Et d'ailleurs, on avait vu avec Montessori, puisque Je pense que tout ça, on peut l'expliquer à des enfants de 10 ans.
Oui, oui, alors bien sûr, vous avez avec Alexis Lacapelle d'Interactive 4D, vous avez produit un jeu qui s'appelle Stratena.
Voilà, c'est ça.
Stratena, et donc c'est un jeu dans lequel les enfants ou les adultes peuvent s'entraîner, avec, ils ont un portefeuille produit.
Et donc, vous le savez bien, puisqu'on s'est rencontrés là finalement.
Oui, on
s'est amusé avec des enfants de première, des enfants de CM2. En fait, on est capable d'expliquer.
Avec Lisa Kamenersik que nous saluons.
Avec Lisa, absolument. On est capable d'expliquer tous les concepts de portefeuille stratégique, de part de marché, de flux de liquidité. Un gosse de 10 ans, il comprend le concept de flux.
On l'avait vu, on s'était rendu compte dans cette. Cette expérience en CM2 que les enfants comprenaient très très bien.
On fait le portefeuille stratégique de Nestlé, ils vous collent les produits Nestlé à la bonne place dans le portefeuille, donc les gosses comprennent extrêmement bien. Et quand on les fait jouer au jeu de stratégie, ils font des scores d'adultes. Hein. Donc ça veut dire que tout ça, moi en fait c'est mon rêve, vous voyez, c'est d'arriver à ce que tout le monde comprenne la stratégie d'entreprise, et ça veut dire changer les cours d'économie. Parce que, évidemment, le truc plus sérieux, c'est que dans l'éducation nationale, et je ne jette pas la pierre aux enseignants, que beaucoup sont des militants,
Bien sûr, oui, et particulièrement dans les sciences humaines, en économie.
Et moi, je pense, si vous voulez, qu'avec toutes les dépenses, on pourrait très bien dire que l'économie, elle pourrait être reprise par des fondations, vous voyez.
Oui, oui.
On pourrait des fondations, des choses extérieures, des entrepreneurs. Il y a 100 000 entrepreneurs qui font un boulot absolument extraordinaire actuellement.
Oui.
Donc je pense qu'il y a un vrai sujet sur le contenu de l'enseignement de l'économie. Et moi, je fais un truc pour lequel ça coûtera zéro, si vous voulez. Parce que je vais monter des cours d'économie qui vont être sur le net.
Oui.
Et donc, vous pourrez, si vous êtes un professeur de terminale, vous allez sur le site, tout le cours est fait. Évidemment, je ne demande rien. Tout ça, c'est zéro.
Oui.
Et il a un cours tout fait. Donc il y a déjà un qui est tout fait. Et alors, je suis très content.
Oui, mais c'est pas la même chose de demander à un fonctionnaire éventuellement gauchiste de lire un cours et d'y ajouter ses commentaires et de faire donner le cours par un chef d'entreprise qui.
Alors, le sujet là, c'est le sujet, c'est le problème du ministre de l'Éducation nationale et du Premier ministre. Hein. Moi, je suis un serviteur du pays.
Bien sûr.
C'est moi qui vais donner des leçons. Mais en fait, je suis en train de monter l'outil et je pense que je vais y arriver. Et j'ai des signes absolument extraordinaires parce que. Chez BFM, maintenant, je vois très bien que sont les replays. Et j'ai commencé à faire un site dans lequel vous allez sur mon site, le site de Xavier Fontanet. Oui. Donc, vous allez le blog de Xavier Fontanet, vous cliquez les cours, vous cliquez BFM, et vous avez un cours un cours qui lance le truc, 40 leçons. Et alors, le coup de théâtre, c'est que les replays explosent littéralement. Ah, oui. Ça veut dire que ce truc-là est actuellement extrêmement utilisé. Et je veux dire, tout ça, c'est gratos, hein. Simplement, vous avez les pubs, hein, puisqu'il faut bien que BFM s'y retrouve. Donc, vous avez une petite pub.
Sur Radio Courtoisie, il n'y a pas de publicité.
Ah, bon,
c'est les
auditeurs.
Remercions les auditeurs de leur générosité.
Remercions les auditeurs au passage. Hein.
Oui, bien sûr.
La BFM, ça marche comme ça.
Oui, bien sûr. Oui.
Mais le système fonctionne bien. Et si ça peut permettre de faire comprendre à tout le monde ce que c'est que l'économie, je pense que le pays arrangera. Hein, le pays s'arrangera. Hein, voilà.
Comment développer l'esprit entrepreneurial en France? Alors, il y a ça, oui. Il y a le fait, effectivement, d'aller dans les écoles et de leur montrer. Concrètement, vous dites d'ailleurs un mot là-dessus dans votre livre. Vous dites dommage qu'on n'explique pas plus ces histoires. La création de valeur est toujours le résultat d'exploits et de trouvailles qui passionneraient les jeunes.
Voilà.
On devrait raconter ces exploits dans les écoles et dans les journaux.
Voilà.
Imaginez l'effet que ça aurait sur l'image que l'on a des entreprises. Et je vous assure qu'à long terme, ça renforcerait la compétitivité du pays.
On va jouer avec les mots aussi, oui. Parce que vous voyez, le résultat, on l'a appelé résultat d'exploitation.
Oui.
Alors évidemment, les communistes disent c'est l'exploitation de l'ouvrier par l'employé.
Évidemment.
Alors qu'en fait, c'est les résultats d'exploit. Quand vous lisez le bouquin des Silors.
C'est vraiment dit.
Ah voilà, je viens de la trouver en vous écoutant. Oui. C'est l'émission qui a trouvé le truc. En fait, c'est des exploits. Il faut que les gens comprennent que la création de valeur, c'est pas une logique.
Non,
c'est
sûr.
Que des coups de génie.
On se rend compte dans
c'est des hommes, l'importance des hommes, il est capital.
On se rend compte dans votre livre, vous citez d'ailleurs beaucoup de noms de collaborateurs.
C'est des affaires humaines.
En expliquant à chaque fois le génie de tel ou tel.
Le génie de chacun,
ce qu'il a apporté à la compréhension du marché, etc.
On est tous très différents, si vous voulez. On n'est pas les mêmes animaux et on a tous un talent. Donc, moi, là, toujours, ce que j'ai cherché, c'est que je suis persuadé que chacun est un génie. Je suis persuadé que chacun, sur un domaine, est top mondial. Et donc, dans une boîte, le grand sujet, c'est de bien connaître les gens pour les mettre sur les domaines où ils sont les plus forts, vous voyez. Et à ce moment-là, quand vous avez le comité exécutif des Silors, c'était vraiment prodigieux parce que vraiment, on avait des champions du monde.
Oui, oui.
Vraiment. Et quand vous avez ensemble des champions du monde qui jouent, vous ne pouvez pas imaginer la joie que c'est.
Oui, non, bien sûr.
Et les gens se repèrent. Hein, quand ils sont bons, ils se...
Oui, oui.
Et puis ils sont...
Et entre sociétés aussi, d'ailleurs, puisque vous racontez des partenariats avec Nikon, des partenariats même avec vos pires concurrents.
On a réussi, si vous voulez, on a réussi à s'entendre avec Nikon, ce qui a été un deal absolument phénoménal, parce que Nikon, c'est une boîte iconique au Japon. Et donc, une coopérative ouvrière française s'allie avec la plus belle boîte d'appareils de photos du Japon.
Oui, oui, oui. Bon,
et en fait, c'est parce que les gens de Nikon ont tout de suite vu qu'on était top mondial.
Hein. Oui, 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 oui.
Et moi, j'ai des souvenirs extraordinaires dans lesquels les équipes de qualité des Silor discutaient avec les équipes de qualité de Nikon.
Ah oui.
Et ben, je vais vous dire, chacun savait qu'il y avait des champions en face.
Oui, oui.
Et
oui.
C'était Nadal contre Federer. Je veux dire, les types, ils reniflaient qu'ils étaient entre champions. Et on s'est entendu grâce à ça.
Hein.
Et donc, moi, c'est un élément très important. Et donc, on peut tout à fait être top mondial. Les Français sont extrêmement dégourdis dès qu'on leur lâche les baskets. Hein.
J'imagine que vous jouez au tennis, puisqu'il y a beaucoup de.
Je joue beaucoup d'allusions.
Je joue beaucoup au tennis. La stratégie fond de court volée, qui consiste. Le fond de court fait une croissance organique et volée, racheter de temps en temps un concurrent.
Je continue à faire beaucoup de tennis.
Voilà,
parce qu'on peut continuer à taper les balles à un âge avancé.
Voilà. Non, bien sûr, oui. J'aime beaucoup ça moi-même. Oui.
Oui.
J'ai parlé d'une dimension qui m'a beaucoup plu aussi, et encore un dernier paragraphe que je lis, toujours sur la concurrence d'ailleurs. Vous dites à la fin du livre, la concurrence a souvent mauvaise presse, et pourtant la saine concurrence est porteuse de nombreuses valeurs. Elle est généreuse, la lutte sur les prix bénéficie le consommateur de tous les progrès de l'industrie.
Voilà.
La saine concurrence pousse à l'humilité, parce qu'on est constamment mis en cause et comparé. Enfin, la saine concurrence stimule et fait progresser tous les concurrents sur le long terme. Au fond, elle est un autre nom de ce que l'on devrait donner à la liberté.
Absolument, oui. Donc, c'est philosophique. Alors, ça vous amuse, je vais m'aller plus loin. Je vais aller plus loin parce qu'on a beaucoup parlé des concepts de mission, vous voyez, de mission de l'entreprise.
Ah oui,
les
entreprises à mission.
Moi, j'ai jamais été chaud.
Hein, ah non, mais moi non plus, c'est délirant.
Alors moi, je trouve que c'est idiot.
Ça laisse entendre que les autres entreprises sont cupides, qu'elles font n'importe quoi dans tous les sens.
Bon, l'ami Sénard, que j'aime bien, j'ai toujours dit, je comprenais pas ces trucs-là, mais bon, c'est très bien, tout le travail qu'ils ont fait, c'est bien, mais...
Bah parce non, c'est que pas finalement, bien, c'est pas bien. Il a fait ça avec Nicole Nota de la CFDT.
Oui,
et je crois que
c'est une dame bien aussi, Mme Nota.
Non, sans doute.
Mais je trouve que, je leur disais, attendez, avant de nous culpabiliser sous prétexte, racontez un peu ce qu'on fait. Parce que vous allez voir, les boîtes font des choses absolument extraordinaires. Donc avant de commencer à donner des leçons, faites un peu l'inventaire de tout ce qui s'est bien, vous allez être étonné. Bon. Et puis alors, deuxièmement, si vous voulez. Pour nous, c'était mieux voir le monde. Hein. La mission, c'est de faire des meilleurs verres.
Et Michelin, puisque Jean-Dominique Sénard était chez Michelin, n'a pas attendu d'être une entreprise à mission pour faire le bien. Enfin,
On voit tout ce que les pneus, c'est ça qui a permis la bagnole, le transport. Vous vous rendez compte
Bien sûr, ça permet des économies d'énergie extraordinaires.
C'est grâce aux pneus qu'il y a l'industrie automobile, il faut être clair.
Donc on n'a pas besoin d'entreprise à mission.
Et nous, les verres, il faut faire des beaux verres, etc. Ça marche tout simplement. Et alors, j'ai développé une idée qui est très importante. Je veux dire, c'est ce qu'on appelle la mayonnaise fontanaire. Je vous la raconter.
Ah oui.
Oui, c'est une parabole de la mayonnaise.
Ben, j'écoute.
Alors, on va faire une mayonnaise et puis je vais prendre des ingrédients. Alors, le premier ingrédient, c'est la concurrence. Vous allez me dire, Fontanet, vous rendez compte, faire la concurrence, ça tue les gens. Monter un système que vous croyez vertueux à partir de ce truc-là, de la voie du vivant. Non. Alors, je prends quand même la mayonnaise. Le deuxième, je prends l'intérêt particulier.
Ah oui.
Vous allez me dire, mon beau Fontanet, c'est l'égoïsme. Non. Vous vous rendez compte que vous êtes vraiment très mal parti. Et puis le troisième, c'est la fidélité. C'est très bien, mais c'est un peu ringard quand même, parce que la fidélité, c'est les chaînes. Hein. Bon. Alors, je mets toutes les trois ensemble. Et je mélange la mayonnaise, je les mélange toutes les trois, et je trouve sur un truc magnifique, parce que, prenez une boîte comme Essilor, il est évident que si on a réussi ce qu'on a réussi, c'est parce qu'on a des clients fidèles.
Hein. Tout à fait, oui.
Si vous perdez les clients fidèles, si vous perdez les clients tous les jours, vos équipes de vente vont compenser les pertes.
Ah oui.
Les boîtes qui se développent, c'est des boîtes qui gardent une base fidèle.
Bien sûr.
L'Oréal, où j'ai travaillé, les clients sont fidèles. Schneider, où j'étais administrateur, tous les clients sont fidèles. D'accord. Donc c'est la fidélité. Mais les gens qui sont fidèles, ils sont malins. Hein, ce n'est pas des idiots.
Hein. Bien sûr. Oui.
Et puis ils ont quand même la concurrence qui permet à tous les jours de changer.
Si jamais une situation est désagréable.
Alors, vous
c'est pour ça, c'est une règle de dire aussi dans cette émission que toutes les lois sur le bonheur au travail, disons, serait inutile s'il y avait un taux de chômage très faible, parce que les gens changent dans la journée. Il y a un patron qui est désagréable avec eux.
On le quitte, on
trouve un autre travail le lendemain, le jour même. Oui, bien sûr.
Je reprends mon raisonnement. Vous avez compris que quand vous avez des clients fidèles qui sont des gens intelligents,
Bon,
si vous continuez à travailler pour eux, c'est que vous gagnez de l'argent.
Bien sûr.
Chacun y trouve son intérêt.
Oui. Hein?
Et donc, la concurrence alliée à la fidélité fait converger les intérêts particuliers
vers et l'intérêt collectif, oui,
vers l'intérêt, oui, général.
Oui, l'intérêt général.
Et le bien commun.
Oui, bien sûr.
Alors,
oui,
attendez,
oui.
L'économie de marché, c'est une construction magnifique.
Ah, c'est sublime.
Attendez, c'est sublime.
Je passe mon temps à le dire.
Pourquoi est-ce qu'on, pourquoi est-ce qu'on critique? C'est absolument sublime.
Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait.
Hein, alors,
parce
en fait...
Que,
on...
Parce qu'il y a des... Parce qu'il y a Marx, quelques autres qui ont conduit des théories.
Marx n'a pas connu l'effet de part de marché. Alors, je me suis amusé, on n'a pas le temps, on fera ça plus tard. On va prendre ChatGPT. Hein. On va prendre, on va dire à ChatGPT, tu es Marx. D'accord. Et moi, je discute avec lui et je démontre que s'il avait compris l'effet de part de marché, il n'aurait pas lancé toutes ces théories. Hein, il est né trop tôt, Marx.
La,
voyez,
la,
bon.
La question, d'ailleurs, c'est vraiment...
Alors, on blague, on
sur,
blague.
Sur un marché comme Facebook, Google, ChatGPT, etc., où les produits sont gratuits, vous ne pouvez pas augmenter votre part de marché en baissant vos prix. Alors, comment
c'est un autre système dans lequel... Si, la vraie bagarre, ça a été la conquête de la publicité. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est que toute la publicité... C'est aussi quand même absolument extraordinaire ce qu'ils ont monté. Ils ont monté leur système en déplaçant la publicité des journaux, de la télévision et de la radio. Ils ont déplacé la publicité, ils ont déplacé 75% de la publicité vers les réseaux sociaux.
Oui, oui. Hein, okay, oui.
Donc, ils se sont autofinancés par concurrence.
Google, pour une large part, oui. Bien sûr,
Facebook aussi. Et donc, en fait, ils se sont autofinancés. Alors, c'est comme ça qu'ils ont monté leur bazar. Hein.
Oui, bien sûr.
Ça s'analyse tout à fait en situation. Alors, moi, je vous fais tous les portefeuilles. de Google, d'Amazon, tout de suite en termes BCG. Hein. Si vous prenez Microsoft, par exemple, écoutez, il y a une vache à lait qui est tous les softwares, etc.
Ah oui, bien
ils
sûr.
Ils ont
oui.
un dilemme contre Amazon qui est le cloud.
Ah oui.
Hein.
Oui, oui.
Là, ils viennent d'acheter une étoile avec l'intelligence artificielle. Alors, je peux vous dire que cette boutique, ça tient la route. Hein.
Ah oui.
Parce que vous voyez, vous avez une vache à lait. Pourquoi est-ce qu'Amazon s'est fait rattraper par Microsoft dans le cloud? C'est parce que Microsoft mettait tout son fric dans le cloud, il l'a poussé.
D'accord.
Et puis maintenant, il a acheté une étoile.
Oui.
Alors, je peux vous dire, ça va tenir la route. Hein. Mais Facebook, attention, Facebook. Alors, c'est peut-être Google qui va être quoi? Mais on analyse. Moi, je vous analyse tout de suite.
Oui, bien sûr.
Avec des
mais de toute façon, ça n'empêche pas derrière. L'analyse est fondamentale, ça n'empêche pas d'ailleurs évidemment d'être intelligent, de jouer les coups, d'embaucher les talents,
etc. Et tous les mecs sont super malins.
Bien sûr, c'est ça.
Ils sont très bons. Donc vous jouez à des niveaux de compétitivité.
Mais c'est ce qu'on voit aussi dans votre livre, c'est que c'est jamais écrit, disons. C'est jamais, rien n'est écrit, rien n'est inéluctable.
Et là, il faut être tout le temps sur le qui-vive, si vous voulez, voyez. Donc c'est une... Voilà.
Je vais parler aussi quand même un petit peu d'un article que vous aviez écrit, que j'avais eu le plaisir de publier dans le bulletin de l'ALEPS. C'était l'hiver de 2014, ça fait donc 10 ans, oui, pardon. Cet article, c'était ce jockey obèse qui sermonne son cheval.
Oui, mais...
C'était un moment où les patrons, alors vous commencez d'ailleurs, ce ne sont pas les patrons qui râlent, mais les entreprises qui souffrent.
Voilà,
c'est important. Ce qui m'intéresse, le paragraphe qui m'intéresse dans cet article, c'est... Au milieu de l'article, vous dites « Si nos impôts sont trop élevés, c'est que notre État est trop coûteux. Il est comme un jockey beaucoup trop lourd. L'État, le jockey, représente 57% du produit intérieur brut et la sphère privée, le cheval, 43% seulement. Nous avons donc en France un équipage où le jockey est à peu près 30% plus lourd que son cheval.
Mmh.
En Allemagne, c'est l'inverse. L'État pèse 45% du produit intérieur brut. » Je ne sais pas si c'est toujours vrai, ça. Oui, sans doute.
C'est les réformes Marx.
Il est donc de 20% plus léger que sa monture, soit 30% de plus qu'en France, 20% de moins en Allemagne, ça fait 50% de différence.
Ouais, ça.
Et ça, c'est quand on voit ces chiffres-là, on comprend. C'est un problème qui n'a pas de solution.
Il y a eu, si vous voulez, la grande différence, c'est qu'il y a eu les réformes Hartz, Schröder-Hartz, et il y a eu la sortie du paritarisme.
Hein.
Alors, ce qui a joué là-dedans, c'est d'abord le fait que les Allemands ont beaucoup mieux compris l'importance de l'entreprise. Et là, donc c'est Helmut Schmidt, et c'est vraiment à lui qu'il faut rendre hommage, qui a expliqué... Le profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain. Donc, les Allemands ont compris que le profit, c'est l'ami de l'emploi et que c'est l'entreprise qui donne le boulot. Et en Allemagne, le patron, ça se dit Arbeitgeber.
Celui qui donne du travail.
Celui qui donne du travail.
Ah oui.
Et là, ils ont une avance sur nous. À la même époque, les syndicats allemands ont eu leur Bad Godesberg. Et donc, ils ont promis qu'ils sortaient de politique. Vous voyez, et donc, je pense que l'énorme avance qu'a l'Allemagne sur nous, c'est qu'ils sont sortis du paritarisme.
Oui.
Un ménage à trois. Et les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que l'État comble les trous des caisses sans le dire. Et la caisse de la retraite qui a été comblée à 70 milliards sans qu'on le sache, c'est franchement pas bien. Vous voyez, c'est franchement pas bien. Et donc, ça déresponsabilise les syndicats qui croient que l'argent tombe du ciel. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est peut-être la réforme la plus importante. Parce qu'une fois que vous avez fait ça, c'est ça qui va faire vivre. Alors le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une sphère sociale trop lourde, donc ça charge les prix de revient, puisque les multiples qu'on met dans les salaires. Ensuite, quand vous avez les impôts de production, ils vous tombent dessus, alors qu'en Allemagne, je crois qu'ils sont à 3,5 chez nous et à 0,7 en Allemagne. Et puis après, les taux d'impôts sont plus élevés, ce qui fait que l'État prend plus de résultats et donc moins d'investissements. Quand vous cumulez les trois, vous expliquez la désindustrialisation. Donc le joker obèse, j'en ferai une autre aujourd'hui qui était très marrante. J'étais l'an dernier à Singapour. Les Singapouriens ont fait un article absolument génial. C'était une course de bateaux. Et donc, il y avait les bateaux à rames.
Oui.
Alors, vous aviez tous les équipages. Ils avaient 6 rameurs et 4 barreurs. Hein. Et si vous prenez l'OCDE, en gros, les dépenses publiques, c'est 40% du PIB et le privé, c'est 60%. Et la France, il y avait 6 rameurs. Il y avait 4 rameurs et 6 barreurs.
Oui, c'est ça.
Donc, c'est exactement le jockey obèse. Les Singapouriens passaient le message à la France.
Oui, bien sûr. Non.
Et le problème qu'on a, il est là.
Il y a un autre problème, d'ailleurs.
Est-ce qu'on va le résoudre maintenant?
Les impôts, ça divise finalement la performance des entreprises, la performance des meilleurs, et ça divise les handicaps dans leur capacité à racheter les moins bons. Et finalement, c'est cette fluidité de l'économie et cette rapidité de l'économie est terriblement handicapée par cette taxation.
Alors oui, et c'est là on va taper sur Keynes une fois de plus, parce que Keynes voit l'économie comme un espèce de flux global. Alors qu'en fait, si vous voulez, c'est la grande découverte que donnent les idées que je mets dans mon livre et qu'on doit à Bruce Anderson, c'est que l'économie s'est fait de milliers d'entreprises. Combien de boîtes avez-vous travaillé depuis qu'on est arrivé? Vous vous rendez compte, vous avez travaillé, vous vous êtes lavé, vous avez pris une voiture, vous avez fait travailler 15 000 entreprises déjà, vous voyez. Et donc, en fait, l'économie, c'est des dizaines de milliers d'entreprises.
Oui.
Il faut assurer une fluidité entre toutes ces entreprises avec de bonnes stratégies. C'est ça qui fait les économies qui marchent, vous voyez. Et dès que vous commencez à filer des impôts là-dedans, vous bloquez tous les mécanismes.
Tout à fait, bien sûr.
Comment allez-vous enlever l'huile? Il faut l'huile dans les rouages. Et dès que vous mettez de l'impôt, vous bloquez tout. Vous freinez l'économie, tous les mouvements, vous voyez. Et ça, alors, le jour où nos hommes politiques comprendront. Alors, j'espère qu'ils liront le livre.
J'espère aussi. Alors, nous arrivons au terme de cette émission. Je rappelle que le thème de l'émission était Entreprises et stratégies, que nous parlions du livre de Xavier Fontanet, de la stratégie en entreprise, conversation avec Pierre Pupier, aux éditions Manitoba Les Belles Lettres, un livre passionnant, on voit plein de choses, il y a une règle qui m'a beaucoup plu aussi, d'ailleurs, c'est il faut que votre humilité, soit l'humilité de l'entreprise, on va dire, soit le carré de la part de marché,
c'est ça, pour
expliquer justement aux entreprises qui sont les chefs de file, qu'elles doivent être très attentives à ce qui peut arriver sur leur marché. Donc voilà, donc très intéressant, je vous dis, ça se lit comme un roman policier. J'espère que beaucoup d'auditeurs partageront l'enthousiasme que j'ai eu pour ce livre.
Un grand merci. Hein,
vous avez
travaillé, parce que vraiment, vous avez vachement travaillé.
Je lis systématiquement les ouvrages des invités.
Au boulot.
Des personnes que j'aime.
Merci beaucoup.
Encore merci à tous. Je remercie tous nos auditeurs. Merci pour vos questions et commentaires. Je remercie Xavier Fontanet, bien sûr. Je remercie Jacqueline Balestier pour son soutien indéfectible. Je remercie Lisa Kamen-Hirsig qui m'a aidé à préparer cette émission. Je remercie Benoît à la réalisation, Jean-Loup au secrétariat, pardon, ainsi que tous les bénévoles de la radio. Et je vous donne... la prochaine émission sera enregistrée, ce sera une émission avec Guy Millière, et moi je vous retrouve le 27 novembre. D'ici là, restez à l'écoute de Radio Courtoisie.
Vous venez d'entendre le Libre Journal des économistes créé par Jacques Garello et dirigé par Olivier Mérès, diffusé en direct sur Radio Courtoisie mercredi 2 octobre 2024 de midi à 13h30 et réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix front de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.